Bonjour et bienvenue pour ce podcast 497 de cette semaine, plutôt pas mal chargé en actualité actuelle et vivante et intense.
Et intense, voilà. Évidemment.
Et magique, bien sûr. Et cette semaine, qui a-t-on avec nous? Eh bien, pas les mêmes têtes, comme vous pouvez le remarquer, à part celle de Romain Mahut.
Je sais même plus vu, si j'étais là la semaine dernière. J'étais pas là la semaine dernière, je crois.
T'étais là il y a 50 ans, oui, je m'en souviens. Très bien. En tout cas, deux nouvelles têtes. Thomas qui revient du Japon.
Eh ouais, bonjour.
La fameuse nouvelle tête de Thomas.
C'est ma première fois. Voilà. Enchanté.
Ça va, tout se passe bien?
Bah ouais, je suis content de vous retrouver.
C'est vrai.
Avec ces nouvelles lumières.
Exactement.
La photo de Furukawa qui a disparu.
Exactement.
Enfin, il y a eu plein de changements.
T'as vu, c'est la modernité maintenant. Ouais. La modernité totale.
J'étais très triste de pas être là pour le débat sur la difficulté dans les jeux.
Mais non, voilà. C'est rien, c'est dans ta tête tout ça.
Ouais. Et je l'ai fait dans ma tête, ouais.
Et puis on accueille Rami, n'est-ce
ouais,
pas Rami?
Ça fait longtemps.
Salut.
Bah oui, ça fait très longtemps, et du coup, un petit retour.
Je me disais même que je le connaissais.
Je me demandais qui est venu s'asseoir.
Ah ouais, exactement. Qui est cet intrus intrusif? Voilà, qui est là parmi nous, qui va nous parler notamment d'un certain Days Gone, n'est-ce pas? Si vous voyez ce que je veux dire. Et bien entendu, il y aura les rubriques habituelles. Hein, win, fail, on va commencer par ça d'ailleurs tout à l'heure. Ensuite, il y a 10 ans. Donc il y aura 3 thèmes, dont je viens vous parler du premier, Days Gone. Il y aura beaucoup de choses à dire dessus. Le thème numéro 2, ce sera Team Sonic Racing et Observation. Que Romain,
et dernière preview, quoi, en gros.
Voilà, une grosse dernière preview que Romain et Thomas ont pu voir. En Angleterre, d'ailleurs, les deux.
En Écosse.
Le thème 3, on va vous parler de la VR. Parce qu'on a reçu le fameux kit VR, n'est-ce pas? Qu'on a essayé avec Super Mario Odyssey et Zelda Breath of the Wild. Et on va vous en dire...
Et les démos du kit.
Voilà, tout à fait, toutes les démos effectivement que toi tu as pu voir. Et on va vous en parler, on verra si c'est bien ou si c'est de la daube. Et bien sûr, anniversaire et hors-jeu.
Chez vous.
Spoiler alert, la deuxième solution est la bonne.
Anniversaire et hors-jeu qu'on verra à toute fin, évidemment. Et on commence tout de suite par le win, n'est-ce pas, monsieur Romain?
Et oui, c'est un win cette semaine qui concerne Nintendo. Parce que au cours de l'annonce de leur dernier résultat financier, ils ont glissé discrètement, enfin pas si discrètement que ça,
non, pas tant que ça en fait,
qu'ils s'apprêtaient à commercialiser la Switch en Chine.
Ouais. Ça c'est
via,
la classe.
Avec l'aide de Tencent, qui est donc un éditeur très très bien implanté en Chine.
Ah oui.
On sait que la Chine c'est un marché qui est immense, qui est pas encore totalement comment dire, exploité à fond par les constructeurs de consoles, mais on sait aussi que historiquement c'est un marché qui a des règles bien spécifiques et pas forcément évident d'y vendre des produits comme les consoles. On se souvient par exemple
des iPhones, hein, c'est
à l'époque de la N64, Nintendo l'a vendu des années après sous l'appellation EQ. Je sais pas si vous vous souvenez,
si,
c'était une
souviens,
manette
ouais.
avec les jeux incorporés dedans, c'est une
fait,
manette ronde.
D'ailleurs, je suis pas sûr qu'ils aient fait un carton. Hein, J'ai l'impression que c'est difficile de faire un carton en Chine.
Bah, sur
même
PC,
si le marché est gigantesque en
sur
fait.
Sur PC mobile, ouais, tu peux y arriver. Sur console, c'est plus compliqué.
Exactement.
Mais en tout cas, c'est en bonne voie. D'ailleurs, ça a fait bondir l'action
Nintendo
dans la foulée. Plus 17% des suites de l'annonce. Mm. Parce que les gens se sont dit, bah ouais, quand d'un seul coup, tu peux toucher le marché chinois, ça t'ouvre des perspectives commerciales immenses.
Assez grand,
par contre, Nintendo a tenu à préciser dans la foulée que Les premières autorisations qu'ils ont déposées, c'était pour le hardware uniquement, qu'il y avait toute une série d'autorisations supplémentaires et d'inspections à demander aussi bien pour le hardware que pour le software. Donc ça, c'est pour ça qu'ils n'ont pas donné de date de sortie en fait pour la Switch.
Traduction, ça va prendre du temps. Quoi.
C'est que ça va prendre,
ça va prendre
encore du temps. Donc
beaucoup de papiers à remplir.
On ne sait pas, mais en tout cas, ouais, potentiellement, ça pourrait être une source financière conséquente pour Nintendo. Et par conséquent pour ses actionnaires.
Exactement.
J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est au taquet pour
quelqu'un
venir faire le
fail. Quelqu'un frappe à la porte,
là.
Mais qui est-ce?
Quelqu'un qui attend.
Voilà, donc ça c'était pour le win. Mais je crois qu'il y a un certain Plume qui veut parler d'un fail. Et il est super vénère. Et on sait pas pourquoi. D'ailleurs il fait son entrée
je suis pas du tout énervé.
Une entrée remarquée et spectaculaire.
Voilà, comme ça je me mets bien au milieu. Je peux même spreader un peu. Voilà, ça va.
Exactement.
Tout va bien. Hop,
tranquille là, la baisse, chatub.
Alors bonjour tout le monde déjà.
Bonjour.
C'est un scandale, voilà, je te le dis tout de suite. Un scandale.
Alors, pourquoi ce fail? Que se passe-t-il?
C'est que le 25 avril, on était tous contents à la Red Hack. On se disait, tiens, il y a un concert Persona à Tokyo. Ils doivent annoncer un truc sur Persona 5S. Or on se disait, Persona 5S, Persona 5 Switch. Tu vois?
Oui!
Tout se passait bien. La veille, il y avait eu Persona 5R qui a été remontré Persona Royal, comme il s'appellera en Occident. Et là,
et là c'est
stupeur.
Le drame.
Stupeur pour les premiums qui découvrent ça. Le Persona 5 S s'appelle en fait Persona 5 Scramble.
Exactement.
The Phantom Strikers. Et c'est un jeu qui sortira bien sur Switch. Mais ce n'est pas Persona 5.
Sur PS4 aussi.
Et sur PS4 aussi. Mais ce n'est pas Persona 5. C'est un Musou.
Tu vois qu'on s'est fait embrouiller ou pas?
Ah, on s'est fait complètement enfler dans l'affaire. Alors je sais qu'il y a des fans hein, des Dynasty Warriors, Hyrule Warriors, Machin Warriors.
Machin Warriors, ouais.
Ok, très bien. Mais pourquoi.
Chez nous, c'est une petite niche quand même.
Pourquoi Persona 5 quoi? Pourquoi pas avoir adapté Persona 5 tel quel plutôt que de nous foutre ça là devant les yeux? Ah ça y est, j'ai mal quand je vois ça.
Tout le monde qui t'as tout le monde qui réclame à corps et à cri Persona 5 sur
mais
Switch
oui.
depuis des années.
Mais on peut y jouer, sur nos chiottes, on pourrait y jouer dans le lit, ce serait génial.
Dans le lit.
Après c'est une annonce qui est clairement destinée au marché japonais et ils partent peut-être du principe que tous les Japonais qui voulaient jouer à Persona 5 Ils l'ont déjà fait, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'avais le concert Persona sur mon écran au moment où ils ont fait l'annonce. Et autant c'était un rejet total en Occident que le public japonais au moment où ils ont annoncé le truc. Ouais. Quand le logo, tu vois là sur le trailer que Poufy passe, quand le trailer Omega Force apparaît à l'écran, ça a hurlé dans la salle. Ils étaient comme des oufs hein, les Japonais, alors que pendant tout le concert ils étaient quand même relativement mesurés dans leur réaction. Là au moment où ils ont montré ça, le public était chaud parce que les Japonais ils adorent les
soulever leur grand mort par centaines. Ils adorent, mais pour Persona, enfin voilà.
Et ce qui est amusant aussi, c'est que ta Persona 5 Royal qui a été annoncé immédiatement en Occident. Alors qu'à ma connaissance, Persona 5 Scramble n'a toujours pas été annoncé chez nous. Pour l'instant, c'est uniquement annoncé au Japon.
Mais
donc
oui, ils attendent de voir comment ça fonctionne.
Peut-être qu'ils le feront pas.
Ah bah, qu'ils se le gardent, j'ai envie de te dire presque. Ah
ouais. T'aurais préféré un Battle Royale, c'est ça?
Non, j'aurais préféré.
Imagine
Persona
si Persona 5. 5R, ça avait été ça. Persona 5 Royal, mais c'est un Battle Royale.
Bah, ça aurait été bien. Alors j'aurais. Oh non.
Toi, c'est déjà PS5, ça.
C'est un Battle Royale et un Musou. je pense qu'il y a plein de fans qui se seraient fait harakiri.
Déjà là, je me sens sale. Voilà. C'est un vrai fail. D'ailleurs, on n'a pas entendu Thomas à ce sujet.
Non, bah mais Thomas, non, je pense qu'il aime bien.
Non, j'étais pas là pendant l'annonce. Moi, les Musou, j'en ai rien à foutre. Dragon Quest a pas réussi à m'y convertir, donc je pense que j'accrocherai jamais à la série. Après, je pense qu'il y a des gens à qui ça va plaire, donc tant mieux pour eux et puis tant pis pour vous.
Il salue le troll en plus. Je pense que tu salues
la trollification.
Parce que c'est quand même du troll de qualité.
À mon avis, personne l'a pris chez eux, en tout cas en interne, comme du troll. Pour eux, c'était
Japon,
vraiment une annonce. Après, il y a Royal qui sort de toute façon, donc je sais que je vais refaire Persona 5, donc ouais, je suis content.
Quelle classe.
Je suis pas aigri comme vous là.
Comme vous êtes.
Moi, je joue à la version PS4 en ce moment. Je me suis enfin remis.
Oui, d'ailleurs, Plume, tu ne l'as toujours pas terminé aussi, me semble-t-il.
Ouais. Il me reste une heure à faire, donc ça va, j'ai le temps.
Ah, t'as le temps. T'imagines si tu meurs demain?
Ouais, comme ça, tu pourras tester.
Voilà.
Scramble.
Je vais vite aller sur YouTube voir la fin. Alors, merci. Trace,
exactement.
Hein, tu m'as bien
jamais. Hein, c'est. Ouais, merci Plume pour cette intervention spontanée et radicale. Bon, là, c'était pour le win et le fail hein, avec un Plume très très énervé, ma foi. On peut le dire.
Il était à fond.
Il était à fond les ballons même. Tout de suite, nous passons à il y a 10 ans sur Gameblog. Après ce superbe magnéto, c'est notre cher Thomas qui va nous parler de ce qui s'était passé il y a 10 ans sur Gameblog.
Et
on
ne vous dit pas comment il a cliqué dessus pour le lancer.
Ouais.
Parce qu'il a des techniques bien à lui.
Secret de fabrication.
Exactement.
Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 10 ans, il y a eu l'annonce d'un Musou déjà. Ça aurait été.
En Europe, les Musou, il y a 10 ans, ils ne devaient pas y en avoir des masses non plus.
Non, je pense pas. Enfin, moi,
on était sur les Dynasty Warriors, mais ça devait être à peu près tout ce qu'on devait récupérer. Mais il y a 10 ans, il se passait quand même des choses assez intéressantes qui font évidemment écho à l'actualité. C'est aussi pour ça qu'on va vous les déterrer. À commencer par les Famitsu Awards 2008, puisque c'était la fin de l'année fiscale au Japon. Et pour le coup, les lecteurs ont pu classer, voter un petit peu. Regardez-moi cette belle brochette en haute résolution que Puffy vous passe à l'écran.
La Super Resol.
Voilà.
La 4K HDR.
Exactement.
La 8K même.
Et c'était Raon qui nous faisait un petit peu le compte-rendu de cette cérémonie avec
ce gros porc.
Tout un tas de prix. Plus ou moins bizarre en fait, il y a des prix, on sent les trucs un peu sur mesure ou les trucs un peu japonais.
Faut que tout le monde ait son prix.
Il faut que tout le monde ait son
prix. La personnalité la plus importante de l'année.
Voilà, et donc il faut rappeler qu'évidemment on est sur du jeu vraiment nippon pour le coup, donc c'était plutôt pour mettre en avant les productions japonaises et pas le reste du monde.
Exact.
Et le jeu de l'année pour Famitsu à ce moment-là, c'était évidemment un Monster Hunter Portable Second G qui était sorti, je crois, sur PSP. Et puisque Trace, tu nous parlais de la personnalité la plus importante de l'année, titre honorifique s'il en est.
Super bizarre.
C'était déjà Hideo Kojima à l'époque qui faisait parler de lui.
Est-ce que vous avez vu le Grand Prix d'innovation?
C'était quoi?
Grand Prix d'innovation,
Oui, musique.
Oui, musique.
Ah oui, non.
Ah, parce que moi je
fallait que Nintendo ait un prix.
Je suis content, je leur vendrai 50 000 euros dans 10 ans, puis voilà.
Donc voilà, beaucoup de choses. Meilleur RPG cette année-là, Tales of Vesperia. Meilleur drama, mon cher Romain.
J'ai vu.
428, Shibuya Scramble.
C'est vraiment le grand prix en matière de haute qualité.
Meilleur drama, Twitter.
Grand prix, déjà la formulation est marrante.
C'était Metal Gear Solid 4 et c'est évidemment pour ça que Kojima avait été une des personnes très importantes cette année. Et
il y avait quand même un prix international.
Prix international pour GTA 4 quand même, ce qu'il fallait peut-être quand même rappeler GTA 4 avait un tout petit peu marqué les esprits, avait vendu quelques copies par-ci par-là cette année-là.
Et ça marche bien au Japon aussi, GTA. Peut-être pas dans la même mesure que chez nous, mais
ça importe mieux que beaucoup de jeux de
c'est un public aussi.
En tout cas, c'est le seul jeu occidental qui décrochait un prix à ce moment-là. Et si on vous en parle, c'est parce qu'il y a quelques jours aussi, on vous a parlé d'un autre classement Made in Famitsu une fois de plus. C'était celui de l'ère Heisei, le top 20 des plus grands jeux de l'ère Heisei. Donc vous savez rapidement qu'on va changer d'empereur là au Japon, c'est peut-être sans doute
trop vieux,
le 30. Donc ça sera déjà fait au moment où vous allez écouter ce podcast.
Bah oui, ce sera le 1er mai.
Le petit nouveau Akihito, si je dis. Non, Naruhito.
Naruhito qui a déjà quasiment 60 ans.
Il va pas encore, il y a
spring,
la fin.
Spring Chicken, comme on dit.
Il y a 57, un truc comme ça.
Ah ouais, ça y est, c'est déjà fini.
Ils ont mis le petit jeune sur le trône. Donc, changement d'empereur, changement d'air. On passe à l'ère Reiwa, là, dorénavant. Et du coup, Famitsu avait demandé à ses lecteurs de voter un petit peu pour les meilleurs jeux de l'ère qui s'achève. Et vous l'avez vu, c'est évidemment Chrono Trigger qui est arrivé en première position. Et j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal.
La présence de Final Fantasy dans ce.
Ah oui, c'est les lecteurs de Famitsu. Hein. Donc, il y a du RPG, il y a du FF, il y a du Dragon Quest. Enfin bref, on vous renvoie à la news sur Gamebog pour plus de détails. Ensuite, il y a 10 ans, on parlait d'un film qui n'est a priori jamais sorti.
Et qui sortira jamais,
très discrètement.
Exactement. Ou alors de manière très confidentielle, en cassette, VHS, cinéma indépendant parisien. C'était BioShock, le film qui était mis en pause en 2009 pour des raisons budgétaires. Voilà. Nous dit-on, film qui a été annulé en 2017, en tout cas officiellement. Donc on n'est a priori pas prêt de voir Rapture en vidéo. Et il était à l'origine pensé pour sortir en même temps que BioShock Infinite, donc à peu près en 2013. Et s'il a été mis en pause là à cette époque pour des raisons budgétaires, j'ai fait quelques petites recherches et c'est qu'apparemment il aurait fallu créer un univers sous-marin pour reproduire un petit peu les décors de Rapture, ce qui a priori coûtait un petit peu de pognon. Et du coup, le réalisateur
a lâché l'affaire.
Est arrivé à la conclusion que ça n'était pas vraiment possible.
Peut-être qu'avec maintenant, 10 ans plus tard, avec la CGI qui a quand même bien progressé, qui était déjà belle à l'époque.
C'est forcément moins cher maintenant. Oui,
ça rendrait peut-être mieux, ça serait peut-être plus réalisable maintenant. Mais de toute façon, BioShock, d'une manière générale, il y a une histoire assez compliquée, hein, qu'il s'agisse de l'épisode PS Vita annoncé sans qu'il y ait vraiment de jeu prévu.
Infinite qui est passé par pas mal d'étapes aussi avant de voir le jour dans sa version définitive. Et une fois de plus, c'est une news que je vous invite à aller relire, puisqu'il y a plein de blagues un peu vaseuses qui tombent à l'eau. Je ne sais pas d'ailleurs qui est l'auteur de cette news, je n'ai pas
regardé.
C'est Raon pour une fois, voilà, Raon qui s'est petit peu lâché, qui nous fait des blagues aquatiques.
Exactement.
Et pour finir cette petite parenthèse, une fabuleuse confession, mon cher Traz, il y a 10 ans. Confession de la part de Square Enix et plus précisément de son président à l'époque, Yoichi Wada.
Exact.
Qui, de but en blanc, nous balance, accrochez-vous les enfants, chez Square Enix, nous avons un problème. Ça nous prend trop de temps de produire un jeu.
Big problem.
Voilà. Donc, il y a 10 ans déjà, il y avait une certaine conscience chez le géant du JRPG des délais un petit peu problématiques, hein, de ci, de là. Citons au pif, vraiment, Kingdom Hearts 3, Final Fantasy 7 Remake.
Je crois que ça n'en
attend toujours des nouvelles. Donc voilà, il y avait déjà un problème il y a 10 ans chez Square Enix, puisque évidemment, dans l'escarcelle, on va dire, de titres problématiques, il y avait eu Final Fantasy XII qui avait dû changer en cours de route de réalisateur, et puis Final Fantasy XIII qui avait mis aussi un bon moment à se dévoiler véritablement au public avec les suites que l'on sait.
Et Final Fantasy XV qui était à la base pas Final Fantasy XV du tout.
Oui, versus XIII.
Quel bazar.
Tu vois que c'était des déclarations d'il y a 10 ans, mais que le problème globalement
il
sur
est
les grosses productions de Square, il est toujours présent, ou même différemment. Regarde. Avengers Project qui a été annoncé en 2017, il nous a dit on vous donnera des nouvelles du jeu en 2018, toute l'année est passée sans qu'ils en parlent presque une fois,
foutre,
et là on est quasiment mi-2019 et on sait toujours rien,
on n'a toujours rien vu pour le jeu.
C'est un problème.
Ça leur demande du temps de corriger aussi ce type de problème.
C'est un problème de riche, arrêtez.
Parce que 10 ans plus tard, nous en sommes à peu près toujours au même point. Voilà.
Et merci beaucoup Thomas pour ces 10 ans d'arrière qui ne nous rajeunissent pas.
Évidemment. J'ai cru comprendre que vous aimez bien mon débit sur cette chronique.
C'est Plume qui dit ça. Moi, je me suis pas moqué, moi, je t'avoue.
Vous êtes tous moqués, j'ai écouté ce que vous avez dit.
Il a tenté une imitation à un moment, c'était plutôt bien lancé.
Bien lancé, mais après,
il l'a perdu assez vite.
Ça a complètement foiré, ouais. Il est pas assez roux, je pense. Et bien voilà, sans transition, ce qui nous mène au thème numéro number one. Avec un certain Rami à ma gauche qui va nous parler de jeu parti.
De jeu parti.
Death Gone. Donc.
Comment foirer son jeu de moral.
Voilà, exactement. Non, mais c'est Rami qui va déstabiliser là. Donc c'est un test que Rami a fait pour Gameblog. Hein.
Exactement.
Je précise qu'il a fini le jeu, qu'il a joué sur PS4 Pro.
Oui, j'ai fini le jeu, exactement. J'ai joué
et
sur PS4
que,
Pro.
Et que, ma foi, eh bien, la note n'était pas forcément. Au niveau attendu.
Bah ouais, parce qu'en fait, il se trouve que...
Alors raconte-nous, pourquoi, qu'est-ce qui se passe?
Le jeu, je l'attendais en fait depuis son annonce à l'E3 2016.
Ouais.
L'annonce était canon.
Mais moi, c'est pareil, je l'attends mort, et d'ailleurs, j'ai envie de le faire.
Hein. Avec les hordes de zombies qu'on voyait, enfin, qui étaient milliers de zombies à l'écran et tout ça. Et une fois que j'ai eu le jeu en main, en termes d'histoire, c'est assez prenant. Les persos, je les trouve assez cool, même s'ils sont assez clichés. C'est vraiment des archétypes de personnages, des gros stéréotypes avec la grosse brute, le héros qui est un peu en mode Daryl de Walking Dead et qui a pas vraiment de...
Gorgé vif.
Exactement, ouais. Avec toute la misère du monde qui pèse sur lui. Et l'histoire prend vraiment du temps à démarrer. On passe dans le No Man's Land, donc là où il y a tous les zombies, etc. Mais aussi, on fait aussi des flashbacks avant l'apocalypse. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir un peu le monde avant qu'il bascule.
Avant que ce soit la dope totale.
Et le jeu, il traite vraiment de thèmes assez forts. Ça m'a un peu, déstabilisé dans le sens où, en bien, parce que ce thème de...
Tu t'y attendais pas, en fait.
Exactement, pas du tout. Ça parle, par exemple, d'homosexualité, mais vraiment, ça va assez loin.
Ça, c'est cru et tout ça, ouais.
Ça parle aussi de l'amitié, de la loyauté, du deuil et aussi du fanatisme. Un peu en mode Daesh par moment, mais vraiment, c'est des thèmes que je pensais pas voir dans un jeu... C'est pas un jeu triple A, c'est un jeu un peu moyen, mais dans ce type en tout cas de gabarit de jeu. Et c'était vraiment sympa à voir, même si je trouve que ça commence, enfin vers la fin du jeu, c'est vraiment ça monte crescendo, puis ça descend petit à petit, et à la fin, j'ai pas trouvé la fin satisfaisante.
Mais c'est quoi qui t'a déplu par rapport au tout début, par exemple tu disais que ça avait du mal à monter, etc., et que tu faisais un petit peu toujours les mêmes choses, devenait un petit peu lassant, quoi.
Ouais, en fait, pour une mission qui va être intéressante, tu vas avoir plein de missions où tu vas aller faire des trucs pour tout le
des
monde.
Des quêtes FedEx.
Exactement, par exemple, aller chercher un baladeur MP3, aller chercher de la levure.
Ça peut servir la levure, hein, tu sais.
Non, ça,
à le lecteur MP3 aussi.
Exactement.
Non, mais c'est pour vraiment une grosse mission qui va vraiment faire avancer l'histoire, tu vas avoir plein de missions qui vont être...
Du remplissage.
Exactement.
Mais elles sont obligatoires, tu peux pas faire autrement, c'est ça?
Non, elles sont obligatoires, sachant que le système de mission, le système de scénario est assez confus, donc pour s'y retrouver, en fait, t'as entre guillemets un inventaire de toutes les missions, mais tu pourras pas choisir tes missions, tu pourras juste voir la progression de tes missions, donc tu vas passer... T'as plusieurs corps de mission, par exemple une mission pour un tel personnage, un personnage A, un personnage B, un personnage C. Et en fait, le jeu va mixer
de
un peu
l'un
tout.
À l'autre à chaque fois.
Exactement, ouais. Donc du coup, c'est assez compliqué de s'y retrouver.
Mais par contre, t'es obligé de tout les finir pour pouvoir avancer.
Exactement,
voir la suite. Finir, okay.
C'est un peu comme Dead Rising. Ouais. C'était un peu comme ça aussi. Ouais, tu pouvais activer plusieurs missions en même temps. Et t'avais
mais quoi qu'il arrive, il fallait les finir.
Missions principales et des missions annexes aussi. Et que tu pouvais laisser expirer en fait. Si tu pouvais les foirer après, je sais pas si là.
Après là,
t'as tout le temps que tu veux pour les
après,
faire.
Après, pour les missions principales, ouais, ça enchaîne petit à petit. Mais pour les missions secondaires, en tout cas, pour ce que. Toutes celles que j'ai faites, c'était redondant à mort. C'était vraiment
En tout cas, tu penses que ça, c'était plus du remplissage qu'autre chose, quoi.
Exactement, ouais.
Et que ça sert pas tellement le. Le cours de l'histoire ou ça servait quand même ça servait quand même l'histoire. Chercher des MP3 peut-être pas mais.
Non ça faisait partie d'une mission principale.
Ouais. Ah ouais.
Donc c'était c'est ça qui est. Voilà.
C'est important la musique.
Exactement. Non mais oui mais en fait quand on ressort d'un Witcher ou d'un Red Dead Redemption où les missions aussi bien principales que secondaires sont scénarisées, où il y a un grand soin qui est apporté à toutes ces missions.
Elles enrichissent l'univers, elles t'apprennent des choses, des
c'est cohérent et par
exactement,
rapport à ce qui se passe.
Exactement, c'est cohérent et même la petite des missions secondaires est scénarisée. Là
pas forcément quoi.
Exactement, tout passe par une radio un peu à la MGS où tu reçois un truc par codec et on te dit
genre tu dois aller faire
méchant,
ça,
et tu dois y aller le voir.
D'accord.
Donc voilà. On ajoute à ça aussi l'IA qui est totalement claquée. Et c'est, ouais. Bah, autant les zombies, enfin les infectés plutôt, ça reste cohérent dans le sens où bah
ils sont bêtes, donc c'est normal
d'être intelligent. Mais les humains, je veux dire, enfin, il y en a plein. Enfin, les scènes d'infiltration, je lançais des cailloux par-ci par-là et je me baladais comme je voulais. Quoi.
Ah ouais, d'accord. Okay. Pas, le ils allaient tout le temps vers les cailloux et
exactement,
toi, tu passais.
Ouais. C'était le système de DIA est assez, je trouve un peu raté en tout cas. Et sachant que voilà, les missions sont pas forcément variées. Là, on voit la moto qui est aussi un élément essentiel dans le jeu.
Ouais, parce que tu peux tout customiser et tout ça apparemment.
Ouais, tu peux customiser ta moto vraiment à un moteur plus puissant, ajouter de la nitro, ajouter un sac de munitions, changer les pneus, le cadre, et tout ça pour qu'elle soit plus puissante. Sachant que tu passes une bonne partie de ta vie dans le jeu à essayer de trouver de l'essence pour pas tomber avancer. En panne, exactement. Sachant que si tu tombes en panne, bah...
Tu fais tout à pied après ?
Tu dois tout faire à pied, essayer de...
Et ça dure super longtemps ?
Ça dure super longtemps, sauf si tu vas voir le mécanicien qui peut essayer de te ramener ta moto dans un camp, quoi. Donc, d'accord, ok. Voilà.
Oui, c'est ça, en gros, tout se passe autour d'un camp comme...
Ouais, en fait,
un petit peu comme Red Dead, quoi. T'as le camp où tu reviens à chaque fois.
Exactement, t'as différents camps dans le jeu, et sachant que la map est assez vaste. T'as différents camps dans le jeu et tous les camps ont les mêmes points d'intérêt, c'est-à-dire un mécanicien, un boucher, un mec avec les primes, et ça ne change jamais. Y a pas de...
Mécanicien, un boucher. C'est ok.
Et du coup, bah, voilà, c'est dans ces camps, tu vas monter du niveau 1 à 3, et ça pour tous
d'accord,
les camps.
Okay.
Donc, c'est des niveaux de confiance que tu vas acquérir au fur et à mesure que tu vas faire des missions ou que tu vas aider le chef de camp à aller tuer un tel parce qu'il a trahi la confiance du chef de camp et tout ça. En général, c'est le genre de mission que tu vas faire et les missions principales qui sont relatives au camp auquel tu appartiens sur le
d'accord,
moment.
D'accord, ok. Et quand tu vas faire des missions et des choses comme ça, tu es toujours tout seul ou
tu non,
peux être avec 2-3 personnes?
Non, t'as accompagné de... Parfois, tu peux être accompagné de soit de ton super ami Boozer ou soit de personnages qui sont relatifs au camp auquel tu appartiens sur le moment. Et en général, bah, c'est marrant parce que sur les quelques scènes d'infiltration où j'étais avec un perso, t'as le mec qui courait. Et du coup, je fais ah bah, je
peux peut-être il va se griller, c'est ça ouais.
Même pas, il se fait pas griller donc il fait sa balade. Et du coup, moi je.
Tu passes de l'autre côté.
Exactement, et tranquille.
Ah oui, d'accord.
Et les hordes alors okay.
Ah, les hordes, par contre, c'était super impressionnant.
C'était hard.
Ouais, c'est assez difficile en plus parce que tu peux avoir des hordes qui peuvent aller d'une centaine à plusieurs milliers.
Il y a vraiment plusieurs milliers.
Ouais, on va dire que ça se limite.
Il me semblait que c'était plusieurs centaines.
Genre 500 à vue de nez, quoi.
Franchement, tu peux en avoir au moins 300 à 400.
Ouais, c'est ça. Parce que t'as l'impression qu'il y en a des milliers, mais.
Ouais, c'est l'impression que ça donne, mais.
Parce qu'ils envahissent tout l'écran, donc peut-être que.
Ouais. Mais c'est vraiment super impressionnant quand on voit, sachant qu'il y en a pas mal dans la map. Donc c'est ça. Moi, je pense au début que c'était que dans les missions principales, parce qu'au tout début du jeu, t'en vois pas. On t'en montre, on te dit, ah, il y a une horde, mais tu vas pas l'affronter directement.
D'accord.
C'est vraiment au fur et à mesure du jeu que tu vas vraiment en voir de plus en plus. Et quand t'as une centaine de zombies d'infectés, de mutants qui courent après toi,
c'est ça, parce qu'ils courent en plus.
Exactement, ils courent. Ouais. C'est pas des zombies à la Resident Evil.
Voilà.
Ils courent et du coup, bah, tu dois user de l'environnement, mais aussi de créer des pièges pour essayer de les faire tomber dedans et essayer de monter aux hauteurs pour pas qu'ils
fassent
attraper, etc.
Et ça, c'est des bons moments dans le jeu, du coup.
C'est clairement des bons moments. C'est super stressant et
C'est ce qu'on voit à l'écran là pour ceux
exactement,
qui sont premium.
Ouais.
T'as une dimension tactique dans ce que tu vas faire ou t'essayes de te dépatouiller comme tu peux en bourrinant
Je pense que c'est tactique.
Moi,
parce que je disais qu'il y avait des espèces de ravins où tu devais les faire tomber, etc.
J'avais fait la démo à l'E3 et si t'y allais genre 100% bourrin,
ça marche pas.
Hein. Non, pas. Déjà, t'as pas assez de munitions.
T'as pas assez de munitions.
Mais il y a forcément toujours une tactique à la con.
Oui, donc ça veut dire qu'il faut connaître l'environnement, sur tes munitions, etc.
Avant de foncer sur la horde, tu vas voir le terrain et tu vois. En fait, l'environnement favorise
une stratégie.
Exactement. Il y a plusieurs barils, il y a des citernes explosives. Donc si tu te débrouilles bien, tu peux
tous les amener.
Exactement. Tu peux essayer de les faire passer par le terrain, essayer de les faire passer par les barils, etc. Et aussi en posant, on peut voir.
Comme on voit à l'écran, effectivement,
des pièges,
il pose des C4 sur des rondins de bois et hop, il les attire. Il va le faire exploser et puis il va en éliminer une dizaine comme ça.
Ouais.
Quoi.
Sachant que les munitions, t'en as pas non plus, comme disait Romain, t'en as pas énormément. Donc du coup,
c'est super limité aussi comme résidente.
Mais par contre, l'arsenal, lui, est vraiment chouette parce que t'as vraiment plein d'armes qui vont être proposées au fur et à mesure de l'aventure. Donc tu vas passer d'un petit pétard au début à un Desert Eagle à la fin, etc.
D'accord.
Et le jeu te pousse. on va te donner des armes pour vraiment affronter la horde et pas arriver que nu, quoi.
Et est-ce parce... que les sensations sont bonnes, pardon, ouais, Traz, quand, quand t'as les armes en main, en termes de mécanique, est-ce que tout fonctionne bien, enfin...
Ça fonctionne bien, mais par contre, t'as pas vraiment de sensations avec les armes. Enfin, ouais. C'est...
Y a pas d'impact.
Non, y a pas vraiment d'impact.
Oui, c'est ce que tu disais dans ton test, effectivement.
Quand tu tires avec un fusil d'assaut, quel que soit le fusil d'assaut, c'est un fusil d'assaut un peu générique, c'est un peu la même sensation qu'Uncharted, en fait.
D'accord.
Je trouve que c'est un peu Uncharted-like.
Oui, c'est pas basé sur les armes.
Exactement.
Ouais, ouais. Tout à fait.
Sachant que, en plus, quand tu rentres dans une zone de mission, c'est une zone de mission qui est déjà prédéfinie. Donc, tu vois, même si c'est un monde ouvert, quand tu vas sortir de la zone de mission, un peu à la Red Dead, on va dire, coucou, reviens, parce que sinon.
D'accord, ok.
Donc, voilà,
mais la carte, par contre, elle se dévoile au fur et à mesure, apparemment. C'est ça,
ouais. La map se dévoile au fur et à mesure. T'as un brouillard de guerre au tout début. Et j'ai un peu sous-estimé la map. Je me disais, c'est assez petit au final. Et ouais. En fait,
c'est quand même assez grand.
Exactement. Plus t'avances, plus tu te manges. Je pensais arriver à la fin du jeu et non, tu te remanges 10 heures dans la gueule. Si encore 10 heures, si encore 10 heures. Ah, mais.
En fait, c'est très long quand même. D'accord, ok.
Et du coup, la map, elle se dévoile. Il y a deux parties de la map. Il y a le nord et le sud. Et le sud est un peu plus simple. Un peu plus des bourrins, c'est un peu plus militaire, c'est un peu des hillbillies dans leur tête.
Mais avec toujours ce côté remplissage justement entre les missions, parce que tu parles de Dissender qui se rajoute, mais où tu vas recommencer un peu les mêmes objectifs.
Exactement,
au final.
Ouais. Il y a quand même, enfin, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pour une ou deux missions intéressantes, tu vas te taper vraiment, c'est vraiment du remplissage sur certaines missions, sachant que les missions sont assez redondantes, c'est énormément de gunfight.
Ouais, d'accord.
T'as quelques courses-poursuites et après t'as le pistage, parce que Deacon, le personnage principal, Deacon St. John, il a la possibilité de pouvoir pister des traces de pas, savoir ce qui s'est passé. En fait, il va analyser le terrain, voir les traces de pas et tu vas voir un peu
À la Batman.
Exactement, voilà. Tu vas voir un hologramme de personnage, un peu à la Mélenchon, où tu vas voir ce qui s'est passé.
Tu vas voir ce qui s'est passé. Le Mélenchoning.
Exactement, et tu vas voir ce qui s'est passé.
Quant au camp.
Ah, mais sur pas mal d'aspects, en fait, de tout ce que t'en racontes, ça fait penser à Metal Gear Survive.
Ah oui.
La gestion du camp, le brouillard autour, les armes et tout, il y a énormément de, paramètres.
Dans Survive, il y a un système de crafting et tout, de gestion des ressources qui est peut-être plus poussé que.
Bah,
il y en a quand même aussi, système de crafting.
Je trouve qu'il est super pratique parce qu'en fait, t'as juste à les récupérer dans l'environnement. L'environnement est super généreux, donc tu récupères.
Ah ouais, genre tu te baisses, tu trouves ce que tu veux, quoi.
T'arrives dans une zone, tu sais que tu vas trouver du chiffon pour faire le cocktail des molotov, des bouteilles, etc. Donc, le système de craft, c'est que t'as l'inventaire, t'appuies sur L1, tu vas choisir le cocktail molotov. Si t'as le chiffon et tout ce qui est
c'est comme The Last of Us, quoi. C'est
exactement,
pareil.
C'est totalement
parce
ça.
Que The Last of Us, c'est très simple. Hein,
c'est ça, c'est vraiment un système de crafting assez simple et qui n'est pas non plus ultra poussé. Tu vas pas aller dans l'inventaire.
C'est une très bonne chose parce qu'il y a des jeux qui ont tendance à pousser le délire du crafting trop loin. Et à un moment donné, t'as pas envie de passer un quart d'heure dans les sous-menus pour faire le truc dont t'as envie.
Là, ça te coupe pas dans le gameplay. Par exemple, t'es face à une horde, tu sais que tu peux, si t'as besoin de faire un cocktail molotov ou une bombe artisanale, tu sais que tu peux aller très rapidement et en quelques secondes, t'as ta bombe et tu le lances directement sur la horde.
Et on voit le bestiaire un peu, on voit quelques animaux là, ils sont.
Ouais, alors
en vidéo, mais ils sont chiants ou pas t'en as beaucoup
Le bestiaire, en fait, j'ai trouvé un peu pauvre parce que
t'as
se résumer
des ours,
en
des corbeaux géants, je sais pas quoi.
Ours, loups et corbeaux.
Exactement.
Corbeaux mutants.
T'as que ça. T'as la variante pas infectée, la variante infectée.
Ah oui, c'est ça.
Et ça s'arrête là. Et en fait, le monde, il est surtout rempli de biches. J'ai l'impression de voir que des biches.
Il y a des bichons, des petites biches.
Exactement. Il y a que ça qui a survécu. Et à part des corbeaux méchants qui infectés, qui vont te pourrir la vie, c'est des vrais plaies, des vraies grosses plaies. Les corbeaux.
Et ils attaquent en horde aussi les corbeaux ou pas?
Ouais, ils sont horde de 6-7.
Ah ouais, bon,
t'es pas en mode Hitchcock.
T'es un nuage.
Bah oui, justement, j'étais en train de me dire ça dans ma tête.
Ah, mais ça pourrait être flippant, justement.
Ça aurait été rigolo.
Voir une nuée qui te fond dessus.
À la Hitchcockienne.
Mais ouais,
rigolo,
en tout cas, pour en revenir à l'histoire, ça reste assez cliché quand même. C'est vraiment, t'as l'infection de zombies, t'as aussi les fédéraux qui sont là, qui sont en mode en train d'analyser le monde. C'est un peu de leur faute, etc. Enfin, donc. Ça sort pas non plus des sentiers battus et je m'attendais peut-être un petit peu plus de la part du jeu.
Parce que là, vu comment tu nous en parles, ça a l'air quand même assez complet, quoi. Après, c'est vrai que moi, j'y ai pas joué, donc.
C'est complet, mais il y a quand même, le No Man's Land est assez vide.
Ouais, complet, et quand 80% des missions que tu fais, c'est du remplissage.
C'est le problème,
en
fait.
Que les persos sont clichés, que l'histoire est pas terrible.
C'est vrai que si tu joues 40 heures et que tu fais 30 heures la même chose.
Ouais, sachant que le monde est assez vide, enfin, t'as des points d'intérêt ou tu vas avoir des points d'interrogation à la Red Dead Redemption, qui pour la plupart consiste à sauver des survivants et les envoyer dans les camps.
D'accord.
Le reste
donc
du
répétitif
monde,
de ce côté-là aussi.
Exactement.
Du
le reste de la map, il n'y a pas grand chose à faire. Quoi. Après, le cycle jour-nuit, il est cool.
Il est plutôt bien fait.
Il est plutôt bien fait dans le sens où le jour, tu vas avoir moins d'infectés. Par contre, ils vont être un peu plus résistants. Mmh. La nuit, tu vas en avoir beaucoup plus. Mais par contre, ils vont être un peu moins résistants. Et sachant que tu as aussi la pluie, la neige, il peut se mettre à neiger à tout moment. Mmh. Ça peut paraître un peu bizarre, mais tu peux rouler. À un moment, il va neiger comme il peut pleuvoir, etc.
D'accord. Et les persos, ils sont poussés ou pas au niveau de...
Les persos ?
De l'histoire ? Est-ce qu'ils sont poussés Ou bien t'en as genre 3-4 qui sont un petit peu plus détaillés et...
Non, t'en as quelques-uns qui sont... T'as le meilleur ami, mais t'as le meilleur ami d'Icon.
Sans t'en spoiler, bien sûr.
Qui est cool, mais qui est très caricatural dans le sens où c'est un peu son meilleur ami, mentor, qui va l'aider à
se dépasser,
exactement.
Etc. Ouais.
Tu parles qu'il va le... Il va le... Merde, je trouve plus le mot.
Trahir,
voilà, c'est ça. J'allais dire, il va le traîtrise. Je crois qu'il va le trahir à un moment donné, non ? Bon, enfin, dis pas, c'est pas grave.
Je me posais une question, moi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure.
C'est
Ravi,
vrai ?
Les thématiques qui sont abordées, l'homosexualité, le deuil, l'amitié, etc., est-ce qu'elles sont intéressantes, en fait, quand elles sont abordées ? Est-ce que c'est pas le tout d'en parler ? Faut aussi réussir à le faire correctement.
L'amitié, le deuil et le fanatisme, ouais.
Le fanatisme.
L'homosexualité, il le traite. C'est. En fait. C'est pas à la hauteur d'un Mass Effect ou d'un ce que fait BioWare, c'est vraiment en surface.
Ouais, on reste en surface.
On reste en surface. Je trouve ça bien
d'aborder. Il y en a, mais ça
exactement.
Va pas plus loin,
ça reste politiquement correct.
L'homosexualité en survie.
Exactement. C'est voilà, il l'aborde.
Mais moi, ça a le mérite d'exister, quoi, parce que
exactement.
C'est vrai que.
Après, pour les différents personnages, voilà, c'est il y en a qui sont bons. Enfin, Deacon St. John, j'ai vraiment du mal avec lui parce qu'il est assez antipathique et on va dire qu'il a des valeurs que je partage pas vraiment. Donc du coup, j'ai eu du mal
à
m'identifier à ce personnage quand il dit, par exemple, à un moment dans le jeu, bon, c'est pas un spoil, mais c'est tôt dans le jeu, il dit moi ça m'embête pas de vendre des humains tant que ça me rapporte de l'argent.
Ah ouais.
Alors, bon.
Ah, c'est compliqué de s'attacher à un truc comme ça.
Donc, du coup, c'est,
oui, moi, violer des enfants, ça m'embête pas.
Oh mais voilà, donc, c'est un peu compliqué de s'attacher à lui.
Ou l'inceste non plus, hein. Ça vaut pas les youtubeurs.
T'as dit quoi ?
Ou l'inceste aussi. Comme dirait un certain youtubeur qu'on ne nommera pas.
Mais voilà, ouais, les personnages sont. Voilà, il y en a qui sont pas mal, il y en a qui sont un peu clichés, et après, il peut y avoir. Il y a eu une polémique il y a peu longtemps sur une phrase qui est dans le jeu, qui est présente dans le jeu, où dans un des flashbacks, on voit la femme dire à sa femme, Sarah, la femme de Deacon, dire à Deacon j'espère que tu me soulèveras plus que ta moto. Enfin.
Quelle classe.
Tu l'auras tes grands morts.
Exactement. Donc voilà.
Couple de redneck.
Exactement.
En même temps, je me rappelle d'une vidéo, le mec il va se marier avec sa casquette et
exactement.
Son jean.
Oui, oui, quoi, oui, ça m'a fait rire ça aussi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, attends, ok, c'est bon, on est tous en mode survie.
Jurez-vous
là,
de
faire.
Sauver Sarah.
Mais après, c'est vrai que.
Ouais, ma gueule.
Dans les moments les plus
l'autre
chelous,
chose qui pourra aussi un peu rebuter certains, c'est le fait que dès que t'arrives dans un point d'intérêt, une mission, le jeu va s'arrêter. Donc tu vas avoir
tu m'en as parlé de ça.
Tu as un fondu en noir et parfois genre le temps va passer du jour à la nuit et tu vas avoir un temps de chargement entre la phase de jeu, la cinématique.
Il faut se recaler.
Exactement. Ensuite la cinématique se termine.
Et le temps de chargement combien à peu près ?
Tu te manges
genre une minute ou
non,
10 secondes
non, quand même.
Parce que dans GTA le temps de chargement se faisait justement au passage du jour à la nuit.
Exactement. Ouais.
Donc là c'est des trucs séparés.
Ouais, clairement là tu peux avoir un fondu en noir et de 10-15 secondes, mais à chaque fois en fait il y a tellement de cinématiques dans le jeu que ça en devient frustrant au bout d'un moment de se dire. Putain, je vais avoir encore une cinématique.
Ah, mais même si le chargement est pas long, on a été habitué. Enfin, on commence à être habitué à des jeux un peu sans transition où tout se fait de manière organique et naturelle.
Même en monde ouvert.
Et revenir sur ce truc-là, forcément, je pense que c'est ça qui nous saute aux yeux aussi,
exactement.
C'est qu'on a commencé à prendre l'habitude de se débarrasser de ce genre de limitation technique.
Bah, quand tu ressors d'exclus Sony, par exemple Spider-Man qui te passait, t'as un moment où même God of War, où, non, voilà, c'est deux titres qui
Red Dead 2 aussi, ça se fait de manière assez naturelle.
C'est ça, donc du coup, revenir sur un système où t'as un cut avant la cinématique, voilà, ça coupe aussi un peu dans l'immersion. Hein. Sachant que pour en finir avec les infectés, il n'y a pas de système de dégâts localisés.
D'accord.
Alors Resident
c'est
Evil 2 qui était assez ouf là-dessus. Ouais, c'est tout.
Soit tu le touches, soit tu le touches pas.
Exactement.
Bah donc en gros c'est un jeu qui avait du potentiel mais qui est mal exploité quoi.
Exactement, ouais. Après je trouve que c'est pas un mauvais coup d'essai de la part de Ben Studios. Voilà, c'est un peu à la manière du premier Uncharted, c'est ça, histoire de se faire la main.
Ils posent des bases.
Exactement. Et ensuite je pense qu'ils sont capables de faire un gros jeu par la suite.
Ah, mais alors, vu l'accueil que le jeu a reçu, quand même.
Bah, c'est justement, c'est assez disparate quand même.
Sony va retenter l'expérience, tu vois.
Bah, c'est la peur que j'avais.
Disparate, c'est. Oui, il y a quelques bonnes notes, mais les plus gros médias, ils sont quand même assez bas.
Il y a entre 60, 70, on va dire.
Ah, moi, j'avais peur
pour un jeu
75.
Pour un jeu triple A Sony, c'est pas trop le genre de moyenne qui le vise.
Non, c'est sûr.
Après, c'est un jeu moyen dans le sens où il y a eu une centaine de personnes qui a bossé dessus. Pendant 6 ans, donc après, moi ce que j'avais peur, c'est que je me disais que si le jeu était pas top, c'est que Sony envisage de fermer le studio. Parce que, quitte à avoir un jeu qui est moyen, bah voilà, mais ouais, on en ressort. Je l'ai noté 6 sur 10 et c'est vraiment une expérience qui est satisfaisante.
Ouais, mais c'est pas suffisant pour que ce soit un bon jeu parmi les tops de la console, quoi.
Non, clairement pas.
On a quand même mieux dans le genre monde ouvert.
Clairement, on a clairement mieux, mais il reste quand même fun. Si on a envie de désinguer, de l'infecter à tour de bras, sans se casser la tête et sans.
Et de soulever des motos.
Exactement.
Et soulever des dead.
Exactement.
Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour du test. Hein. Je sais pas. Nous, on n'y a pas joué, donc.
Moi, j'avais fait la démo.
T'avais déjà fait la démo, c'est ça.
Ouais. J'avais réussi à avoir la Horde. J'étais un des rares à réussir.
Quelle classe. Bah, écoute, tu vas le finir pour le prochain podcast et tu nous en parleras. Ou pas. Eh bien, merci Rami pour ce long test de Death Gone. Donc, 6 sur 10 hein, sur Gameblog, si vous voulez aller lire sa review super complète. En sachant que sur Metacritic, je crois, la dernière fois que j'ai regardé, il était à 72. Donc, ce qui n'est pas gigantesque quand même pour un jeu de ce genre.
Ah, il n'y aura pas de bonus à 72. Hein.
C'est un peu... Non, là, je pense qu'ils peuvent.
Si, ce sont les développeurs dessus. Qui les payeront assez vite.
Exactement. Eh bien, farpé. Moi, ça me donne quand même envie de jouer. Hein. C'est pas pour failloter ou machin, quoi que ce soit, mais je sais pas, le thème est sympa, etc. Mais bon, après, peut-être que je vais me faire chier au bout de 3 heures, hein, c'est possible. Hein, mais
Quand tu vas voir que toute l'émission consiste à faire du gunfight, tu vas
peut-être, peut-être que ça va au bout d'un moment. Bon, je verrai.
Mais après, ça peut être parfois indigeste à la manière d'un Assassin's Creed où faut pas enchaîner l'émission
trop longtemps.
Trop longtemps.
Tout à fait. Et bien après ce thème numéro 1, donc sur le test de Death Gone, on va passer au thème numéro 2 avec deux grosses previews, même des reportages entre guillemets qu'on fait à la rédac, que Romain et Thomas ont été voir respectivement en Angleterre il y a pas très 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 longtemps. On va commencer avec Romain qui a été voir je me souviens plus du nom. Team Sonic Racing, c'est ça, voilà.
Ouais, donc j'avais réussi.
J'ai l'impression qu'il est pas dans le bon ordre, ce titre, en fait.
C'est exactement ça. J'allais dire Crash Team Racing, en fait, mais non. Team Sonic Racing.
Juste avant le 3, l'année dernière, j'avais pu aller dans les locaux de Sega Europe pour essayer une première démo, mais c'était vraiment limité au sens où c'était sur un seul circuit et on n'avait pas accès à beaucoup de personnages ni quoi que ce soit. Là, c'était quand même une version beaucoup plus avancée et on avait pu essayer le solo, le multi, etc. Donc j'ai quand même beaucoup plus d'infos et un ressenti un peu plus concret sur le jeu par rapport à ce que j'avais vu l'année dernière. Donc Team Sonic Racing, c'est toujours développé par Sumo Digital, donc c'est-à-dire le studio anglais qui avait développé Sonic and Sega All-Stars Racing, puis Sonic et All-Stars Racing Transformed. D'ailleurs, le jeu, c'est clairement l'héritier de ces deux titres-là. Hein. Les bases du gameplay, de la prise en main, sont les mêmes. Et il y a même des circuits en commun, en fait. Il y a des nouveaux tracés, mais il y a aussi plusieurs circuits qui sont repris de ces précédents jeux.
Et donc l'affiliation est évidente, du coup.
L'affiliation est évidente. Pourquoi ils ont décidé de retirer les All-Stars Sega pour mettre toute la bande des Shitty Friends de Sonic?
Parce que
je ne me l'explique pas.
Ouais, c'est dommage.
Parce
ça.
Que pourquoi pas?
Parce que c'est peut-être plus vendeur auprès des enfants ou
des petits enfants.
Je ne sais pas, mais il n'empêche que si, parce que moi mon plus gros problème avec ce jeu, c'est justement le fait qu'ils aient retiré les All-Stars et qu'ils se soient concentrés sur Sonic. Mais si on met ça de côté, c'est un jeu qui s'annonce vraiment très bien. La session de preview à laquelle j'ai pu participer était on s'est vraiment bien marré parce qu'on a fait pas mal de multi, parce que comme son nom l'indique, c'est un jeu qui met vraiment l'accent sur le jeu en équipe. En fait, dans chaque course, ce sont des équipes de 3 personnages qui participent en même temps et les personnages peuvent s'entraider en cours de course et en fonction de la position que vous avez à la fin, et bah, chaque position correspond à un nombre de points et les 3 points sont cumulés et c'est l'équipe qui a le plus grand nombre de points qui gagne la course. Et je trouve que c'est une idée super intéressante parce que je sais pas si comme moi vous avez pu jouer à Mario Kart par exemple avec de la famille ou des amis au fil du temps dans le lot, que ça soit des enfants ou des non-joueurs
sur
etc.
internet,
il y a toujours quelqu'un ou plus, une ou plusieurs personnes dans le groupe qui est quand même bien en dessous des autres,
j'allais dire moins forte,
et qui peut jamais gagner un seul circuit, tu vois, qui, et tu peux avoir cette frustration au bout d'un moment de jouer pour perdre non-stop. Et là tu as cette dimension jeu d'équipe qui peut être sympa, parce que même si la personne va pas forcément faire beaucoup de points à la fin de la course, ces points vont quand même contribuer à l'ensemble. Et en plus, en cours de partie, il y a plein d'interactions que vous pouvez faire.
Tu peux lui donner ta puissance.
Donc un peu comme dans Mario Kart, il y a des objets, hein, les traditionnels objets, les boosts, les pièges, etc., etc. Mais en appuyant sur une touche, je ne sais plus si c'est carré ou rond, sur la manette PS4, oui. Vous pouvez en fait soit réclamer un objet quand vous n'en avez pas et que vous avez besoin de quelque chose, soit en donner à un ami. Et vous voyez derrière Sonic, là il y a une... Bon là, il est en
vidéo,
feu,
ouais.
Comme il fait son super pouvoir, on voit pas bien. Mais derrière le personnage que vous incarnez, il y a une jauge, il y a une barre, là on la voit un peu à l'écran là. Et en fait, à chaque fois que vous faites une action d'équipe, c'est-à-dire que vous donnez un objet, que vous en récupérez, etc., ça fait remplir cette jauge. Et une fois que cette jauge est remplie, vous avez votre super pouvoir, et là vous pouvez pendant quelques secondes aller beaucoup plus vite et défoncer les adversaires.
Ouais, mais donc t'as un vrai team play et t'as une bonne raison de jouer collectif.
Et vous voyez
ça,
là,
c'est cool.
Là à l'écran, par exemple, quand vous roulez, il y a une traînée jaune. Et en fait, quand tu joues,
elle est rouge.
Et non, que tu vois la traînée jaune, en fait, c'est la traînée d'un de tes coéquipiers. Si tu te mets dedans pendant quelques secondes et que tu t'en échappes, ça te fait une inspiration et tu peux avoir un boost.
Aspiration.
C'est une, je dis quoi ?
Inspiration.
Une aspiration, oui, pardon. Et donc, ouais, tu peux profiter de la vitesse de ton coéquipier pour accélérer d'un seul coup.
Ce que tu peux pas faire du coup avec des adversaires.
Non, avec les adversaires ça marche pas. C'est vraiment que tes coéquipiers qui peuvent. De toute façon, ce sont les seuls à voir la traînée, parce que sinon l'écran serait recouvert de traînées. Et j'entends Poufy qui ricane parce que j'ai dit recouvert de traînées, c'est
et
ça.
Voilà, c'est parti. Ça
c'est pas le même, type de jeu.
C'est vrai,
Poufy.
T'as vu Sonic qui sort de sa caisse et il saute.
Et donc oui, il y a plein d'objets. Alors évidemment, certains pouvoirs sont assez comment dire.
Basique.
Ouais, basique au sens où c'est le type de pouvoir qu'on peut voir dans un Mario Kart, tu vois. Mais il y a d'autres trucs qui sont un peu différents. Par exemple, il y a un pouvoir, c'est une traînée de feu derrière, là pour le coup pas juste une traînée jaune, mais une vraie traînée de feu derrière ton
rouge,
personnage.
Alors.
Et si cette traînée de feu, un adversaire va se mettre dedans, ça va le ralentir, tu vois. C'est,
ça va pas le cramer.
C'est, ça va le gêner. T'as des boosts, t'as l'équivalent de l'encre que t'as dans Mario Kart qui recouvre l'écran. Là, ce sont des notes de musique. Bon, quand tu sais jouer, ça
te gêne pas. Est-ce que t'as une carapace bleue dans Sonic, Team Sonic Racing?
Carapace bleue, je sais pas, mais
un item bien relou qui fait
missile,
chier le premier.
T'as un missile, enfin, t'as plusieurs types de missiles. T'as les missiles qui partent droit devant ou droit derrière sans viser. T'as les missiles à tête chercheuse. En fait, t'as un certain nombre d'objets malgré tout. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, ça c'est tiré des All Stars Racing, etc. Quand vous êtes en l'air et que vous bougez les sticks, vous pouvez faire des figures. Et si vous arrivez à faire vos figures avant de retoucher le sol, ça vous donne un boost. Quand vous faites des dérapages et que vous restez appuyé, il y a le boost qui se remplit progressivement. Là, j'ai trouvé un peu plus dur que dans les All Stars Racing, au sens où pour avoir le full boost, il faut rester quand même beaucoup plus longtemps appuyé. En termes de gameplay, ça marche bien, c'est efficace, c'est coloré.
En termes de level design, ça a l'air assez varié.
C'est la chambaille.
C'est ça, en fait, c'était un défaut qu'il y avait eu dans la première saison preview, c'est qu'il nous avait mis un seul circuit et c'était le circuit de base. Et donc c'était un tracé super naze.
Et t'en as bouffé pendant des tours et des tours.
Ouais, alors que là, on avait accès à plus de choses. Effectivement, tu vois que les tracés sont assez sophistiqués. Il y a plusieurs chemins, parfois il y a des choses qui se passent.
Il est plutôt original celui-là en tout cas.
Il y a des choses qui se passent en cours de course qui peuvent
changer, etc.
Dans Transform, tu sais, d'un tour à l'autre, le circuit pouvait se transformer complètement et tu passais de la voiture au bateau ou trucs comme ça. Là, les transformations, c'est plus dangereux. Mais des fois, t'as des pièges, tu vois, par exemple, les lasers là qui passent au fond, un coup ils sont à droite, un coup ils sont à gauche.
D'accord.
Après, il y a des trucs qui font un peu penser à Mario Kart. Il y a un circuit où t'as un ennemi géant qui est au milieu, qui tape sur la route d'un côté et ensuite de l'autre, etc. T'as les personnages qui se parlent, qui, des petits messages préenregistrés en cours de, en cours de circuit. Alors attends,
comme, comme Satana, c'est Diabolo.
J'ai pris,
Il y avait eu un jeu d'ailleurs sur Dreamcast, Wacky Races.
Oui, donc au total, il y a 12 circuits qui étaient sortis sur PlayStation et N64 aussi, je crois.
Ah oui, j'ai joué sur Dreamcast alors.
12 nouveaux circuits et 9 circuits issus des précédents jeux. Vous avez un mode histoire aussi. Alors, le mode histoire, il est un peu feignant au sens où ce sont des écrans fixes avec des personnages fixes et des dialogues parlés par-dessus, tu vois. Genre, ils reçoivent une mystérieuse invitation à une compétition, mais ils sont. En fait, ils sont méfiants dès le début. Oh, tu sais, dans les jeux comme ça, généralement, ils sont tout confiants et ensuite, d'un seul coup, il se passe un truc. Là, dès le début, ils jouent, ça pue un peu, là.
Ça pue, mais on y va quand même.
Ça sent le Robotnik, on y va. Enfin, ça sent le Eggman, mais on y va quand même. Mais ouais, donc le mode histoire, il est pas
très chargé quoi.
Ouais, il est pas super original et c'est des enchaînements de courses ou d'épreuves, etc. Mais bon, ça fait du contenu. D'un point de vue technique, moi je l'ai trouvé très beau et très agréable à jouer. Il y a juste certains circuits avec des sortes de looping ou des trucs comme ça. Quand c'est dans un environnement assez sombre, par moment t'arrives pas trop à voir où tu dois aller. Donc des fois tu vas te retrouver sur le côté de la route alors que tu l'as pas fait exprès, quoi, parce que tu voyais pas trop où tu allais. Là dans la version à laquelle j'ai joué aussi, il y avait pas sur tous les circuits, mais quelques circuits qui étaient un peu qui ralentissaient. Non, qui ralentissaient quand l'action était un peu
trop fouillée.
Un peu dense. Et c'était vraiment pas sur tous les circuits, c'était des cas particuliers. Un autre truc aussi, c'est que les différents véhicules n'ont pas les mêmes capacités. De mémoire, il y a vitesse, défense, force et
dérapage.
Et en fait, tu vois, par exemple, il y a certains véhicules qui perdront moins de vitesse quand ils iront rouler dans l'herbe sur le bas-côté, tandis que d'autres auront d'autres avantages et d'autres inconvénients. Et comme dans Mario Kart, tu peux maintenant customiser.
Justement, c'est la question que j'allais te poser. Ouais.
Tu peux customiser ton véhicule. T'as plein de pièces.
Ce qu'on voit à l'écran.
T'as plein de pièces pour le faire. Moi, par exemple, là, quand on faisait des parties, parce qu'on a fait des compétitions à l'event, moi, je jouais avec Sonic et j'ai fait en sorte de booster vraiment ma vitesse. Donc j'ai tout mis sur la vitesse au détriment du reste. Par contre, ma défense elle était quasiment nulle, ce qui fait que dès que je me prenais un objet un truc comme ça, j'étais arrêté pendant 2 secondes avant de pouvoir repartir, tu vois. C'est vraiment à toi de gérer ça en fonction de ta manière de jouer. Bon, tu peux gérer sur la couleur, jouer sur la couleur, etc. mais en tout cas, il y a beaucoup de pièces. Apparemment, il y a 135
ça a l'air très complet là, hein.
135 pièces de personnalisation de véhicules au total, 15 véhicules de base que tu peux customiser. Un autre truc que j'ai trouvé pas mal, c'est que donc t'as du split screen en local à 4, t'as du jeu en ligne, et ce qui est cool, c'est que si t'as deux potes, comme ce sont des équipes de 3, si t'as deux potes avec toi sur ton canap, tu peux aller jouer en ligne avec eux. D'accord. Genre tu peux aller faire des courses contre d'autres personnes, mais avec tes deux amis à côté de toi. Et comme c'est de la coop dans la course, la communication elle est vraiment nécessaire, tu vois. Donc si tu peux avoir tes deux potes à côté de toi et tu dis ouais vas-y file-moi un objet ou là on fait ça ou truc comme ça, ou balancer les pouvoirs en même temps, c'est pas mal du tout. Donc oui, j'ai fait le tour là à peu près. Un autre petit défaut que j'ai trouvé, c'est peut-être pas assez d'objets de défense. Parce que quand on était dans la compétition contre les autres joueurs là, il y a des moments où tu te fais vraiment massacrer, t'as pas vraiment de quoi
ouais, t'as eu l'impression de subir un petit peu en fait.
Ouais, tu te prends un truc, ensuite t'as, en plus comme mon véhicule était naze en défense, je me prenais un truc avant même que je puisse repartir, je me reprenais un autre truc, et des fois 3 ou 4 fois de suite tu te fais
c'est un grand classique des jeux à la Mario Kart.
Ah bah exactement, t'as un mec qui traîne au milieu de la piste, tu te dis oh, j'avais pas prévu de balancer une carapace, mais bon il est là donc
Mais si on met de côté le côté Sonic and Shitty Friends et qu'on se base juste sur l'expérience de jeu en termes de gameplay, etc., et de réalisation des environnements, parce que ça c'est important aussi, c'est un beau Mario Kart like. J'ai passé un bon moment, et je pense que comme ses deux prédécesseurs, ça va être relativement réussi dans l'ensemble. Et j'ose espérer que les petits soucis de ralentissement que j'ai pu subir seront corrigé d'ici là. Je précise que pendant ma session de jeu, c'était sur PS4 Pro qu'on jouait.
D'accord. Voilà. Et ça ramait pas trop, non? Ça allait, c'était pas.
Bah, je te dis, à part quelques ralentissements sur certains circuits, c'était propre et fluide. Et parce qu'en plus, c'est des, ouais, il y a du monde à l'écran, donc
il y a des textures, il y a des effets.
Que ce soit les compétiteurs, plus les parfois des petits personnages qui se baladent dans l'environnement.
Et puis t'as pas mal d'effets de brouillard et tout ça, visiblement. Donc
le brouillard.
Et ça sort quand ça, du coup, à la fin de l'année,
ça sort le 21 mai, je crois.
Ah non, 21 mai, d'accord.
Ah non, c'est bientôt. Ça avait été repoussé déjà.
Ah oui, c'est pour ça, parce que c'était marqué winter machin. Du coup, j'ai eu un doute.
Du coup, je pense qu'ils ont bien fait de le repousser, mais c'est.
Ouais.
Ça a pas l'air d'être un mauvais jeu du tout. Passez vraiment un bon moment sur et je vous conseille, si vous y jouez, de jouer à plusieurs en coop, parce que ça ajoute vraiment un truc.
Mm-hmm. Voilà. Tout à fait. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup Romain pour ce titre Team Sonic Racing. Maintenant, on va passer à Thomas qui a été observé à certains d'autres jeux.
Exactement.
Qui s'appelle Observation.
Tout à fait, qu'on a pu essayer pour la première fois en fait, parce que depuis que le jeu a été annoncé, IGN avait eu la primauté de l'essayer une première fois, et puis depuis, le jeu n'avait pas beaucoup refait parler de lui, il était resté assez mystérieux, et puis on l'a revu comme ça popper pendant le State of Play. On a vu une brève petite
l'état
vidéo.
Du jeu,
l'état du jeu, exactement, l'état de l'art. Et là, on a été invité par l'éditeur Devolver à aller l'essayer enfin à Glasgow en Écosse, et j'ai pu du coup découvrir un petit peu la première heure. Du jeu, globalement, ce qu'on avait une heure pour faire le début.
T'as eu peur ou pas?
Oui.
C'est vrai?
Oui, je te raconterai, j'ai eu un moment où je me suis ridiculisé parce que j'étais un petit peu dans l'ambiance.
Et tu t'es déguisé en Cosmonaut.
Et donc, Observation, je vais pas trop vous en dire sur ce qui s'y passe véritablement, parce que c'est vraiment un jeu narratif où les surprises vont faire partie véritablement de l'expérience. Mais comme vous aviez déjà pu le voir et comme les derniers trailers le laissaient suggérer, en fait, vous incarnez l'IA d'une station spatiale qui est normalement en orbite autour de la Terre, dans laquelle il y a des humains qui sont là en train de travailler et ce genre de trucs.
Des humanoïdes.
Et il se passe quelque chose. On ne sait pas trop, mais on se réveille
un petit
peu avec la gueule de bois. Vous êtes avec une jeune scientifique qui s'appelle Emma Fisher qui vous rallume. Vous, IA, vous vous appelez SAM, qui est donc un acronyme.
Ah, qui vous rallume.
Bah oui, elle vous rallume. Et en fait, vous allez être chargé d'exécuter un petit peu les commandes et les missions qu'Emma va vous donner, puisque elle se rend rapidement compte qu'il se passe un problème. La lumière suggère que la station est rentrée en spin, en fait, donc elle est en train de tourner et de vriller. Donc il y a un vrai souci. Il faut déjà savoir si la station est en train de chuter peut-être vers une planète ou un corps astral. Et du coup, c'est à vous qu'elle s'adresse, puisque vous, en tant qu'OS, vous avez un petit peu la main sur tout, et vous allez pouvoir surtout utiliser les caméras en fait de la station pour observer un petit peu ce qui se passe dans des pièces qui sont pas encore accessibles pour Emma, et vous synchroniser, on va dire, avec des appareils, des laptops, obtenir des codes d'accès pour justement ouvrir les différents sas de la station spatiale et lui permettre d'avancer. Donc il y a une interaction en fait qui se crée entre vous, IA, et Emma, qui vous demande de faire tel ou tel truc. Elle va vous demander des états sur telle partie de la station, puisqu'elle voit qu'il y a une erreur, donc ça va être à vous de réussir à aller jusqu'à cet endroit-là, de scanner un petit peu les environs, et ensuite, avec l'aide du bouton L2, on a une espèce de surcouche d'interface qui apparaît à l'écran et qui vous permet de répondre. Donc vous pouvez choisir, éventuellement des fois, de répondre à côté, vous pouvez valider quelque chose qui n'est pas totalement vrai, c'est un petit peu en fonction du joueur en fait.
Et ça a un impact, ça, de faire ça?
Alors, au niveau de ces choix-là, je pense que non. Je pense qu'il n'y a pas d'impact. Par contre, il y a certaines parties du jeu où il va vraiment effectivement se passer quelque chose en fonction de la réussite ou de l'échec de mini-jeux, parce qu'on passe d'une caméra à l'autre. Il y a aussi beaucoup de petits jeux, parfois un petit peu classiques, vraiment déjà joués plein de fois, qui vont vous permettre de vous synchroniser ou de réussir certaines opérations. Et le problème, c'est que des fois, le gameplay du mini-jeu change et on te l'explique pas. Et on te dit d'un coup, hop, t'as 30 secondes pour réussir cette combinaison-là. Donc il faut tout de suite comprendre ce qui se passe. Et ça a été le cas notamment à un moment donné pour l'éjection en fait d'un module qui était en partie corrompu. Donc Emma décide qu'il va falloir éjecter un bout de la station spatiale, en fait, laisser partir dans l'espace pour sécuriser le reste de la station. Il y a un mini-jeu. Si tu le réussis, le truc se détache proprement, la station s'en va. Si tu le foires, ça pète un petit peu. Bon, finalement, le module s'éjecte quand même, mais j'ai posé la question aux deux fondateurs du studio, les frères McKellan, qui m'ont dit que, justement, si tu réussis à éjecter proprement le module, il y a un moment donné dans le jeu où tu vas sortir dans l'espace et où tu vas pouvoir te rendre à l'intérieur et découvrir éventuellement des éléments. Donc, si tu l'as mal éjecté, ça, ce sera pas possible. Donc, il y a différentes manières de réussir le jeu. Par contre, en termes de structure de récit, c'est plutôt un couloir, c'est plutôt un truc assez dirigiste. C'est pas un arbre à arborescence comme le fait Telltale sur ses jeux ou d'autres jeux narratifs du genre, les jeux de Quantic, etc. Là vraiment il y a une histoire à raconter. Et vous allez interagir, en fait, voilà, vous allez aider la jeune scientifique. Et du coup, la première heure, en tout cas en termes de narration, moi elle m'a bien scotché parce qu'il y a deux gros twists sur cette première heure de jeu qui m'ont vraiment donné envie de voir la suite. Je vais pas vous raconter ce que c'est, mais grosso modo, à un moment donné, on aperçoit quelque chose dans l'espace et on comprend que on n'est pas du tout, mais alors du tout, où on est censé se trouver. Donc il s'est vraiment passé quelque chose, il y a eu un problème a priori énorme avec cette station. Et surtout en incarnant l'IA, Sam, vous avez de temps en temps un message un peu bizarre qui apparaît comme ça, amène-la. De temps en temps comme ça pop et il y a une espèce de son strident derrière. Donc il y a quelque chose un petit peu psychotique,
un peu flippant, hein.
Qui relève beaucoup du thriller, qui donne envie véritablement de savoir ce qui se passe. Et en espérant en tout cas que les mécaniques réussissent à se renouveler un petit peu, parce que les premiers mini-jeux qu'on est amené à faire, c'est pas incroyable non plus en termes de gameplay pur. Par contre, l'ambiance que ça installe, la relation aussi qui va se développer entre Sam et Emma, qui va évoluer, en fait l'IA va apprendre au contact d'Emma et va changer aussi sa manière de parler au fur et à mesure de l'aventure, ça laisse présager de très bonnes choses. J'ai trouvé qu'en termes de rythme, pour l'instant, c'était assez maîtrisé, et surtout en termes d'ambiance, on est évidemment pas au niveau d'un Dead Space, mais on est quand même dans une espèce de vide avec toujours un bruit de fond. Et de temps en temps, des guitares qui saturent, un beat électro qui arrive, il y a des choses assez particulières, mais qui réussissent à donner une couleur à ce qui se passe. Et tu me demandais si j'avais flippé, il y a des moments où t'es pris, où c'est assez angoissant.
T'es angoissé, ouais.
Et en fait, quand j'ai terminé la démo, et t'as un écran de chargement qui reste, mais t'as quand même un son en fait qui continue de tourner. Et moi, j'avais gardé le casque sur les oreilles, je commence à prendre quelques notes. Et là, il y a le... il y a le producteur exécutif qui arrive et qui me met la main sur l'épaule en disant « c'est fini, monsieur ». Et je n'y attendais pas du tout, donc j'ai hurlé. Parce que je pensais pas que quelqu'un allait venir et me toucher l'épaule. Donc
excellent.
J'ai gueulé dans l'environnement de test où on était. Et du coup, je l'ai vu, j'ai dit « ah, mais c'est vous qui vous êtes occupé aussi des musiques et tout ?» Il dit « oui, c'est moi ». Je dis « bah, vous voyez, ça a plutôt
ça
a bien marché, a priori ». Donc voilà, c'est belles promesses pour l'instant de la part d'Observation, qui est développée par No Code, hein, qui avait fait Stories Untold, que Camille avait beaucoup aimé il y a quelques années. Et leur but, c'était vraiment de faire ce jeu-là. En fait, ça fait très longtemps qu'ils l'ont préparé et pitché en fait à l'éditeur Devolver.
En tout cas, c'est ultra original. Hein, comme...
Et ouais, ça promet en tout cas de belles choses si le rythme parvient à rester assez entraînant.
Oui, c'est ça, il ne faut pas s'endormir. Quoi.
Voilà, il ne faut pas s'endormir. En tout cas, moi, je peux vous dire que de ce que j'en ai vu, j'ai très très hâte de jouer à la version finale pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui s'est passé, parce que ça m'a vraiment accroché en termes d'intrigue. Reste à voir après si voilà, les mécaniques sont pas trop redondantes sur la, j'imagine, dizaine d'heures qu'il va falloir pour en voir le bout, et si la conclusion est à la hauteur des promesses qu'on nous balance pour l'instant. En tout cas, le fait d'être dans cette station spatiale, c'est quand même assez inédit. Et surtout, à partir du moment où en fait Emma vous installe dans un espèce de petit module arrondi qui m'a fait penser à Wheatley de Portal 2, où d'un coup, en fait, tu peux te balader librement, vraiment en 3D dans le vaisseau, tu te rends compte que ça a beau être des enchaînements de modules, tu te perds super vite, parce que tu regardes la carte en fait de la station, tu te dis bon bah c'est facile, il faut que je traverse tout et j'aille là-bas, sauf qu'en fait dans l'espace il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, donc très souvent tu es obligé d'observer ce qu'il y a autour de toi pour essayer de comprendre dans quel sens tu es censé lire la pièce, parce que c'est bordélique puisque tu es en apesanteur, donc t'as plus les repères que tu avais sur Terre, donc tu es enfermé mais quand même déboussolé et pris un peu par l'immensité du truc. Donc voilà, j'ai bien aimé, moi, ce que j'ai vu. J'attends de voir la suite, mais du coup, ça inaugure plutôt du bon. Et Observation, bah, comme Team Sonic Racing, sort le 21 mai prochain.
Ça, c'est là où ça a l'air balèze, c'est que, en termes de narration et en termes d'ambiance sonore, etc., parce que quand tu regardes juste les images que Poufy nous diffuse depuis tout à l'heure, t'as du mal à comprendre que ça soit angoissant ou quoi que ce soit, en fait. Donc, s'ils arrivent à le rendre un peu inquiétant, angoissant... Et même...
Je pense qu'avoir le casque sur les oreilles, effectivement...
C'est que la manière de raconter l'histoire et de l'illustrer avec les sons, en fait...
Et puis, il s'y passe surtout des choses vraiment très, très étranges. Et si t'as un tout petit peu d'empathie avec cette scientifique qui se retrouve livrée à elle-même, parce qu'elle avait des collègues avec elle, ils étaient plusieurs à occuper cette station... Vu que tu as accès qu'à une petite partie du module au début,
tu sais pas ce qui se passe.
Le moment où tu éjectes le module 12 qui est corrompu, tu sais pas s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Parce que t'as essayé de reprendre contact, elle a évidemment essayé de contacter la Terre, elle appelle Houston au début, etc. Mais t'as personne qui lui répond. Donc...
ça se trouve, c'est elle qui les a tous tués.
Ah, mais voilà, mais il y a beaucoup d'interrogations qui se posent, mais surtout, tu sens aussi qu'il y aura quelque chose de pas clair avec cette IA, dont la mémoire est évidemment corrompue. Parce que comme ça...
D'ailleurs, ça fait un peu penser à 2001, l'Odyssée de l'espace.
Ah, mais complètement. Complètement. Machin, hein. L'acronyme en trois lettres, etc. C'est largement inspiré de 2001, mais sous la forme voilà d'un thriller un peu sci-fi. Donc moi j'ai hâte de voir la suite.
Ouais, effectivement, ça a l'air.
J'ai hâte de connaître le dénouement de cette histoire. Ce que j'ai vu m'a donné suffisamment envie d'y revenir.
Bah ça donne envie en tout cas, effectivement. Voilà pour Observation, donc que tu as été voir en Écosse.
Et qui sortira sur PC et sur PlayStation 4.
Ouais, quand déjà?
Le 21 mai.
21 mai.
Comme
donc c'est
Sonic Racing.
Très bientôt. Voilà. Oui, effectivement, c'est marrant. Effectivement, aux mêmes dates. Eh bien, merci beaucoup pour ces deux jeux que vous avez été voir et qui sont encore des previews, mais qui vont devenir bientôt des tests, qui sortent bientôt. Et on va passer au thème numéro 3. Et cette fois, on va parler de la Switch, mais la Switch comment? En VR, entre guillemets, n'est-ce pas? Parce qu'on a tous pu l'essayer ici. Effectivement, on a reçu le fameux kit VR Nintendo Labo. Et c'est Thomas qui l'a monté, c'est ça hein? C'est
oui.
Toi qui a monté le petit appareil voilà, qu'on voit
vendredi quand tu n'étais pas là.
Exactement.
Une joie non dissimulée.
Oui, alors, en soi, donc, voilà. C'est un super exercice pour les enfants de le monter, mais c'est sûr qu'en tant qu'adulte, tout seul.
Donc, c'était pas compliqué à monter ça quand
oui,
même.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de gamin à la rédac, donc on pouvait pas jouer le jeu du eh, viens, on va bricoler le truc.
Ça, c'est trop bien.
Donc, pour un adulte seul, c'est très long. Mais genre très très long parce que c'est fait à la Nintendo. Donc avant de décoller un autocollant, vous avez eu 15 messages d'avertissement,
oui,
etc. Donc voilà. Mais après, bon, faire ça avec son gamin, je pense que c'est une super expérience. Ça,
sympa,
ça, ça t'amène à comprendre comment fonctionne le machin. C'est hyper ludique. Donc voilà, moi je juge ça du point de vue d'un adulte sans gamin.
On est d'accord, tout à fait. Nous sommes d'accord. Alors justement, ça vaut quoi depuis le temps qu'on en parle?
Bah on a essayé,
aussi
Zelda bien
Mario
et
Mario.
Zelda à la Redax ce matin. Et bah j'avoue que moi j'étais, tu vois, pour Zelda moins parce que c'est moins ma came, mais pour Mario, après avoir joué à Astrobot, connaissant l'ingéniosité de Nintendo, je m'attendais à quelque chose de. J'ai l'air tellement intelligent là.
Est-ce que Poufi nous balance les images qu'il a prises tout à l'heure justement de Romain en train d'essayer Mario Odyssey?
Et je m'attendais 8K en plus. Je m'attendais à un truc vraiment ingénieux, original, etc. Et en fait, c'est un peu naze Mario, l'expérience Mario en VR. C'est que
c'est
des petits niveaux où tu dois récupérer des instruments de musique que tu dois redonner à des musiciens. Mais le problème, c'est que la caméra ne bouge pas en fait. Toi, tu peux tourner la tête pour suivre Mario, etc. Mais tu restes figé à un point de la map, ce qui fait que quand Mario s'éloigne, et bah, tu le vois de moins en moins bien. Et c'est de la bouillie de pixels.
C'est
quoi.
De la bouillie de polygone.
T'as un bouton de zoom.
C'est pas terrible.
T'as un bouton de zoom qui te permet de te rapprocher de Mario, mais bon, ça réduit quand même vachement l'image que tu vois apparaître à l'écran.
Bah, sur L et R en fait. Hein, tu
et,
avec ça,
et même, tu vois, c'est en termes de confort d'avoir les mains à côté de la tête comme ça, de tenir le truc collé à tes yeux. Enfin, c'est pas plaisant quoi. Et moi, je suis pas du tout sujet à la nausée ou au mal de crâne. J'ai aucun problème avec le PlayStation VR. Même le Virtual Boy ne me fait rien. Là, Mario m'a un peu filé mal aux yeux. C'était pas top, plaisant du tout.
Non,
alors, juste, on précise, avant de continuer sur Mario, ça reste un bonus qu'on télécharge gratuitement.
Okay.
Comme pour Zelda, hein, c'est un mode qui vient se rajouter avec la mise à jour du jeu. C'est pas un truc payant, c'est pas un DLC, ça relève de l'ordre du bonus.
Et pour Zelda, en fait, ça transforme ta tête en stick droit. Tu peux pas vraiment regarder
ça
partout
autour
de
caméra,
toi
en fait.
Tu restes toujours figé, collé à Link en fait. Tu peux pas, si tu tournes la tête etc, bah ça va déplacer la caméra autour de Link. Tu peux pas, genre par exemple Link là comme on le voit à l'écran en bas à droite, tu peux pas décider de regarder en haut à gauche et de ne plus voir Link, tu vois. Il restera toujours dans ton champ
sera le centre du truc quoi,
dans ton champ de vision. Et pour le coup là, bah, la technique en prend un coup aussi. Je trouve que c'est moins vilain que sur paradoxalement que sur Mario, parce que Mario il prend vraiment très cher.
Mario prend vraiment cher. Oui,
mais je trouve que c'est plus cohérent avec Mario qu'avec Zelda. Avec Zelda, pour moi, il n'y a aucun intérêt.
Ils ont eu deux logiques différentes. En fait, dans Mario, tu as trois mondes qui ont été pensés, qui sont tirés des mondes de Mario Odyssey, mais qui ont été pensés pour être une petite expérience VR.
Alors que Zelda, non.
Alors que Zelda, c'est le jeu en lui-même, quoi. Que tu peux voir à travers le casque. Donc, tu peux faire, entre guillemets, le jeu en VR, pas à la place de Link, mais comme le disait Romain, plutôt à la place de la caméra, en fait.
Exactement.
Mais du coup, c'est juste un mode pour Breath of the Wild.
Ah bah complètement.
C'est un mode supplémentaire. Là où Mario, c'est trois petits niveaux dans lesquels il va falloir remplir des objectifs assez succincts.
Très vite fait.
C'est vraiment vite fait pour débloquer un bonus qui vaut pas forcément la chandelle non plus. Je vous laisserai le loisir de découvrir ce que c'est. Mais c'est plus de la lettre d'intention et de l'application en mode démo technique que quelque chose de vraiment pensé et abouti dans un cas comme dans l'autre.
Mais c'est là où ça m'étonne, parce que Nintendo, ils sont tellement pointilleux, tellement
soucieux de mettre en avant le hardware quand ça sort, quand il y a de nouvelles choses.
Les chevaliers du travail bien fait, quand ils sortent le jeu, c'est qu'il est terminé. Je trouve pas digne d'eux de sortir ces trucs-là, tu vois. Surtout,
je pense que c'est l'occasion qui fait le larron. Ils ont sorti Nintendo Labo, ils ont dit allez, on va faire un kit VR.
Ils ont dit c'est peut-être un moyen auprès des fans de Mario et Zelda de les inciter à s'acheter le kit Nintendo Labo.
Ouais, mais là, tu les incites via une petite expérience qui est très rapide et par Zelda qui est pas forcément pensée au départ à la VR. Donc c'est dur aussi de... Enfin, moi je trouve que ça fait un peu cher payé juste pour
découvrir ces petites expériences.
Exactement. Ouais.
Parce qu'il y a d'autres petites choses dont on va parler.
Une fois de plus, c'est un bonus parce que à la base, le kit VR, vous l'achetez avec le kit Nintendo Labo.
Exactement.
Qui lui vous apprend déjà à le monter et qui propose 16 petites expériences en fait adaptées pour la VR. Et alors quand je dis expérience, ça va vraiment pas plus loin parce que je les ai toutes testées hier soir chez moi. Je pensais que j'allais passer la soirée dessus. C'est vraiment de la pure démo technique, c'est-à-dire que ça va de regarde, il y a un personnage au cédar, tu sais, que tu utilises pour faire des croquis, etc. Ouais. Tu peux le prendre et le secouer dans tous les sens et c'est tout. C'est ce genre de choses. Tiens, voilà un boomerang, il y a une cible en face, envoie le boomerang dans la cible. Dès que tu l'as fait, c'est terminé. C'est vraiment des expériences très 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 courtes. Ça se destine vraiment aux enfants. Et pour le coup, si vous vous posiez la question, justement, ce que Rami disait, savoir est-ce que j'investis dans ce casque qui en soi fonctionne, ça vous fait un casque de réalité virtuelle, pas incroyable en termes de définition, etc. Mais sur le plan technique, ça fonctionne. On l'a tous essayé ici, ça te donne l'impression d'être en 3D dans un truc.
En même temps, vu le prix, c'est fait pas s'attendre.
Si vous le prenez d'abord via Nintendo Labo, de toute façon, ça va être pour vos enfants, ça va être pour faire découvrir quelque chose à vos enfants. Si vous êtes d'accord avec le principe de leur faire essayer la réalité virtuelle, ça va être plus de l'expérience pour comprendre ce que c'est et comment ça marche. C'est pas du jeu à proprement parler. Là, ce que vous montre Poufy, ce sont encore d'autres jeux qui sont complémentaires avec justement les différentes fonctionnalités de Nintendo Labo, avec l'oiseau notamment, la pédale, etc. Ça dépend aussi du kit que vous allez acheter, parce que vous avez un petit kit VR et un kit beaucoup plus important avec différents animaux. Donc ne comptez pas le prendre pour vous en vous disant ça va être rigolo, il y a bien des trucs qui vont s'adresser à moi en tant que joueur. Non. Que ce soit dans Nintendo Labo ou via les nouveaux niveaux de Mario Odyssey ou le Breath of the Wild en réalité virtuelle, il n'y a rien qui justifie de se le prendre si on est un joueur et qu'on imagine le prendre pour ça.
Tu vois, c'est pour ça que je rejoins ce que disait Rami, c'est que
Mira,
si tu es attiré par Mario, enfin intrigué par Mario et Zelda en VR, et toi tu lui dis ouais, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi Nintendo Labo. Mais bon, le truc c'est que, comme tu viens de le dire, les jeux VR Nintendo Labo, ils sont pas du tout faits pour des hardcore gamers,
ils sont faits pour les enfants.
Mais finalement,
la façon Nintendo Labo de base, c'est fait pour les gamers.
Mais au final, un hardcore gamer qui est intéressé par la réalité virtuelle sur Switch, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui s'adresse à lui.
C'est pas pour maintenant, très clairement,
certainement pas.
Et l'autre truc c'est que vu la qualité, moi j'ai pas essayé les jeux VR Nintendo Labo, j'ai juste essayé Mario et Zelda. Vu la qualité d'image, jamais de la vie je laisserai mon enfant mettre la tête là-dedans. J'ai l'impression que ça te bousille plus les yeux qu'autre chose. On sait que les casques de réalité virtuelle, d'une manière générale, c'était soit 12-13 ans d'âge minimum. Là sur Nintendo Labo, il me semble que c'est 7, mais je trouve que 7 ans pour les mettre face à ça, C'est chaud, hein. Moi, j'aurais alors, pas trop
7
envie.
Ans pour les jeux du Nintendo Labo, ça va. Et en plus, ça a été quand même bien fait. Enfin, c'est le bon côté des messages à répétition. C'est que toutes les 10-15 minutes, vous allez avoir un message qui pop en disant pensez à faire des pauses, etc.
J'en ai eu une tout à l'heure, tu vois.
Et de toute façon, comme tu le disais aussi tout à l'heure, Romain, le fait de tenir le casque, puisque vous avez les Joy-Con
avec
en main,
deux mains, ouais.
la console est simplement glissée. Donc, c'est le maintien des Joy-Con dans vos mains qui va faire que le casque tient sur votre tête. Ça fait qu'on n'est pas toujours justement immergé dans le jeu, vu que dans Mario par exemple il faut tourner la tête pour regarder derrière soi ce qui se passe. On a vite fait de se rappeler de sortir justement du côté réalité virtuelle pour se dire que oui, bah oui, c'est vrai, je suis dans ma chambre, dans mon salon, etc.
Sauf si tu joues allongé sur ton lit comme ça.
Ça, ça fatigue aussi.
Ouais, ouais, il faut que tu tournes la tête à certains moments. Tu vas devoir te lever.
Bizarre.
Donc, il y a ce côté penser pour ne pas enfermer les gamins aussi dans ce truc-là. Parce que je pense que c'est quelque chose qui fait aussi très peur aux parents.
Oui,
de
oui
rien.
C'est pas le but du truc. De
là,
façon.
Voilà, vous n'avez pas quelque chose de vissé littéralement sur la tête. C'est un petit accessoire qu'on peut enlever. Moi, pendant que je jouais, il y a mon chat qui est venu sur le canapé. J'ai tout de suite retiré. J'ai vu ce qui se passait et je suis reparti dans le truc. Voilà, on est assez libre de ce qu'on fait à côté.
Mais pour le coup, je trouve que l'effet réalité virtuelle il est plus réussi dans Mario que dans Zelda, parce que dans Zelda ça m'a plus fait penser
à un jeu
3DS en fait.
Mais oui,
ouais. Où t'as l'impression de profondeur plutôt que l'impression d'immersion dans le monde du jeu.
Bah, je pense que c'est plus dans les gradés qu'autre chose. Hein, mais
c'est con. Oui, bah visuellement le jeu en prend un coup, c'est sûr, mais c'est triste quand tu vois un jeu comme Astrobot. Je prends souvent en exemple parce que franchement Astrobot c'est mon jeu de l'année dernière, tu vois, j'ai adoré vraiment à tous les points, et je me dis que j'aurais aimé voir ce que Nintendo serait capable de faire en faisant vraiment un Mario en réalité virtuelle.
Rien dit qu'ils bossent pas dessus, hein.
Ah, ils le feront peut-être,
maintenant que l'accessoire est sorti, parce qu'il faut avoir la réflexion dès le départ. Astrobot il est pensé de A à Z pour la réalité virtuelle, c'est ça qui fait qu'il est absolument génial.
Ah, mais c'est pour ça que je trouve curieux ces petites expériences, même si elles sont gratuites, etc. Mais je trouve curieux de sortir ces petites expériences Zelda et Mario en VR, parce que ça te donne pas un premier aperçu positif, ça te laisse pas avec une bonne impression de ce que la Switch permet en matière de réalité virtuelle.
Ça te dit juste qu'elle peut le faire.
Voilà. Oui, voilà. C'est juste ça.
Tu l'actives dans Zelda, tu te dis que ok, tu peux faire l'intégralité d'un jeu d'action en 3D avec ces lunettes-là. À quel prix? Mais en tout cas, tu peux le faire.
Franchement, je sais pas qui veut le faire, ça. Hein. Je pense que personne ne le fera.
Bah, dites-le nous, si vous êtes peut-être brûlé.
Tu crois que quelqu'un va
refaire
le Zelda admettons qu'il l'ait déjà fini.
Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait le dernier boss de Sekiro avec les bongos de Donkey Konga il y a pas longtemps. Donc
oui,
en fait, tu sais que les gens sont fous et peuvent faire absolument n'importe quoi.
Par contre, il y a déjà des gars qui se sont fait des kits custom avec une sangle pour attacher le casque à la tête. Et il y a même une marque.
J'allais le dire.
Il y a même une marque qui a commercialisé une sangle que tu peux mettre pour l'attacher à ta tête sans avoir à modder quoi que ce soit. Genre, ça se clip, ça c'est facilement, visiblement. Mais
ça t'arrête solide quand même parce que la Switch elle pèse un petit peu quand même.
Ouais.
Après, même si c'est des petites expériences, c'est vrai que de la part de Nintendo, je me serais peut-être attendu à avoir un vrai jeu, enfin comme ils ont l'habitude de faire, un vrai jeu qui exploite vraiment
la vie. Un vrai Zelda, un vrai Mario.
Exactement, avec des mécaniques de jeu vraiment centrées exactement sur la VR. Avec pour te dire, bah voilà, nous on fait aussi la VR, on a un jeu qui est un jeu, un peu une tête d'affiche de ce que nous on peut faire concernant la VR, même si c'est pour les enfants, ça peut être aussi une expérience ludique, mais avec un vrai gros jeu qui te... Voilà quoi, qui t'aurait
mais vu que pour l'instant le casque est disponible uniquement avec Nintendo Labo, je pense que ça doit freiner aussi, mine de rien, les équipes. Après,
ça rend pas du tout comme
non,
ça.
Non, c'est toujours regardé en vidéo, c'est pas la même résolution là.
Oui, le trailer que Poufy vous montre est c'est légèrement
juste...
lifté, on va dire.
C'est après, juste pas pareil du tout.
Après, ce qu'ils attendent de voir en termes de vente,
mais peut-être qu'effectivement, c'est juste une petite incursion en disant voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé.
Ça prouve en tout cas que la Switch est capable de le faire.
D'accord,
la Switch show. Ouais, mais franchement, s'ils veulent nous faire changer d'avis, nous les hardcore machins, franchement, je pense qu'il va falloir sortir un autre kit. Hein.
Oui, bah de toute façon, tu sais que les hardcore gamers, ils ont déjà acheté un autre casque, ils ont un Vive, ils ont un Oculus. Ils attendaient, pas Nintendo pour s'y mettre.
Le truc, c'est qu'il y a aussi pas mal de gens qui sont. Enfin, tu les vois dans les centres commerciaux, quand il y a des stands d'essai, de casques de réalité.
Ils sont dans les campagnes.
Il y a une vraie curiosité. une vraie curiosité des gens pour la réalité virtuelle. Les gens ont envie d'essayer. Et la Switch, ça pourrait servir de porte d'entrée, tu vois. Le problème, c'est que là, la porte d'entrée, t'as envie de la refermer assez vite.
La fermer direct dans leur gueule.
Pour l'instant. Faut pas
pour l'instant.
Non, mais on tire pas des conclusions non plus trop rapides du potentiel. C'est la première tentative de réalité virtuelle de la part de Nintendo. C'est sûr qu'on n'est pas bluffé pour l'instant. C'est peu de choses
pour l'instant, ouais, c'est sûr.
De dire ça, mais en attendant de voir maintenant ce qui va se présenter dessus. En tout cas, le casque désormais existe.
Existe.
Exactement.
Et il va falloir qu'on monte tous les autres petits trucs.
Que tu montes.
Que je vais monter, ouais.
Je me suis tapé le casque, ça me suffit.
Que j'ai monté avec mon gamin.
T'as mis combien de temps pour le casque ?
Bon, 5 minutes, ça arrête.
Non, c'est ce que.
J'ai dit
5 minutes.
Dis pas de conneries, Thierry.
J'ai dit 5 minutes au début, mais comme les explications
en fait, 3 heures.
Sont très longues,
ouais.
Franchement, j'ai bien mis 25 minutes, je pense, un truc comme ça.
Ah, ça va. Mais ça m'a semblé long.
J'ai cru que t'allais me dire 3 heures.
Parce que tu vois, il y avait une indication pour chaque genre petit autocollant que tu dois mettre, un truc comme ça.
Ah, bah c'est précis, au moins la précision Nintendo là-dessus.
Oui, après, tout est fait pour te planter. C'est très bien fait, tu ne peux pas te planter, même si tu files ça à un enfant qui se
Oui, comme
seul.
Tu dis, c'est pensé pour.
C'est pensé pour,
façon.
C'est ludique, c'est très bien fichu.
C'est vidéoludique.
Je pense que
dirais.
Si j'avais eu 6-7 ans, j'aurais été aux anges de monter un truc pareil. Donc voilà, de ce point de vue-là, ça marche très bien, mais comme les précédents Nintendo Labo d'ailleurs.
Tout à fait, ouais.
Mais ne le prenez pas pour vous, parents, c'est pour l'instant vraiment pas justifié. Mm-hmm.
Et puis pour. C'était combien, une cinquantaine d'euros à peu près ? T'as le kit, la kit VR.
Pour
avec,
le petit kit, oui.
Plein d'autres jeux. Et plein de petits trucs à monter, on va dire que c'est plutôt
sympa. Reste à voir s'ils vont creuser le truc maintenant.
C'est ça,
oui, c'est ça,
c'est
voilà.
La vraie question.
Est-ce qu'ils vont s'arrêter à ça en disant, bah non, finalement, ça prend pas, les gens sont pas intéressés. Ou bien, est-ce qu'ils vont proposer Kit VR 05, 06, 07, 08, avec plein d'autres jeux. Mais effectivement, comme disait Rami, ils auraient peut-être dû faire une démo Mario, une démo Zelda, mais que dédiée à la VR, avec une vraie résolution VR.
Ça c'est compliqué, hein. À moins de faire un jeu visuellement plus simple.
Oui, plus simple, bien sûr. Genre, mais
un petit jeu
eShop.
Ouais. Parce
exactement.
Que la Switch,
on
elle peut
d'accord.
donner que ce qu'elle a, tu vois. Et en termes de puissance, elle est quand même assez limitée.
Donc globalement,
VR,
bon, on va dire qu'on est un petit peu déçu, mais comme disait Thomas, c'est vraiment pour les enfants. Donc vous attendez pas des.
Bah même, enfin, les enfants ont le droit de jouer à des bons jeux, quoi. Enfin, Mario et Zelda en réalité virtuelle, c'est un peu naze.
Ah bah moi, Zelda, je le conseille pas avec la VR, ça sert à rien, aucun intérêt. Le Mario avec ses petits yeux, oui, à la rigueur, mais alors le reste, non. Enfin, pas Zelda en tout cas. Voilà, bah, on a fait le tour sur le kit VR, n'est-ce pas, qui est sorti il y a quelques semaines.
La semaine dernière, c'était le 25 avril, je crois, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, 25 avril. Et nous, on l'a reçu le 26 à la rédac. Non, c'est sorti une semaine avant, je crois.
Peut-être, en tout cas, on l'a monté la semaine dernière et on l'a essayé.
Un petit peu en retard parce qu'il n'y avait plus de stock.
Ces trois derniers jours.
Donc voilà. Eh bien, nous allons passer tout de suite. À quoi ? À l'anniversaire ?
C'est vrai ?
Ouais.
Pourquoi tu me regardes ?
Bah parce que je crois que c'est toi
qui... Il voulait que tu chantes joyeux anniversaire.
Voilà, exactement.
Ouais, je connais que la version du Club Dorothée. Ouais.
Quel est l'anniversaire ?
La meilleure.
Quel est l'anniversaire que l'on fête cette semaine, mon cher Thomas P ?
Eh bien, c'est Plume qui a relevé en fait l'anniversaire...
Ouais, tu dis que c'est Plume, mais c'est pas lui en fait.
Ah bah si, c'est carrément lui.
C'est un menteur.
Je le nomme... Et pour le coup, c'est.
Je balance,
j'hésite pas, je suis comme ça.
T'as bien raison.
Et une fois n'est pas coutume, là, c'est pas un jeu dont on fête l'anniversaire aujourd'hui, mais un studio. Et un studio français pour le coup, puisque.
Français, monsieur !
Nous fêterons le 2 mai, donc dans une poignée de jours après la diffusion de ce podcast, les 22 ans du studio Quantic Dream.
Ouais, ça craint, hein.
Bah, je sais pas si ça craint, ils sont toujours là en tout cas. C'est,
22 ans
c'est peut-être déjà pas mal.
Non, mais je veux dire, ça nous rajeunit pas, quoi.
Quantic Dream qui a vécu un tournant il y a quelques semaines, là, en annonçant la fin du partenariat avec Sony.
Exactement.
Et l'arrivée
sans doute l'annonce la plus importante depuis la création
de
du studio.
Temps, l'arrivée des jeux du studio sur PC et aussi l'accord avec la boîte chinoise, là,
Tencent.
Non, c'est pas Tencent.
Ils sont deux.
Non, c'est une autre.
Il y a deux grosses boîtes chinoises.
C'est une autre boîte, enfin bref, qui est devenue actionnaire, enfin qui a mis de l'argent.
Quelques actions quelque part. Hein.
Bah ouais, c'est un studio un peu à part, mine de rien. Quantic Dream, c'est du triple A avec l'accent mis sur la narration. Ouais.
Et sur les choix.
Ouais, alors,
sur la conséquence des choix en jeu, ouais.
Exactement.
Ouais. Ouais. C'est un studio qui fait pas l'unanimité non plus. Moi personnellement,
bah, il faut aimer, c'est sûr. Hein,
bah
c'est...
personnellement, moi je suis client. J'ai toujours été client des jeux
pareil,
quantiques.
Pareil, Julo, c'était un expert. Ouais.
J'ai fait tous leurs jeux sauf Nomad Soul. J'y ai joué un petit peu, mais je l'ai pas
non,
terminé.
Non plus, j'ai pas fini Nomad Soul, j'avoue.
Mais
Nomad Soul qui est donc leur premier jeu en 99, ouais. Hein, pour le coup, c'est celui qui les a lancés.
Exactement.
Et j'ai toujours fait un parallèle entre les jeux quantiques et Shenmue. Il y a beaucoup de choses qui m'ont toujours rappelé Shenmue dans Quantic Dream j'avais déjà eu l'occasion d'en parler avec David Cage.
C'est la puissance
des QTE.
C'est
vrai que
la puissance des QTE.
Il déteste pas Shenmue.
Bah
tu
oui,
vois,
il s'en inspire un petit peu pour certains trucs, je pense.
La narration, et certains se moquent un peu de la qualité d'écriture parfois, mais je trouve qu'il y a des... Alors des fois il se rate un peu, mais il y a des choses percutantes par moment.
Je trouve que Heavy Rain et Détroit, ils sont très bien faits.
Heavy Rain c'est mon préféré.
Après, c'est
largement.
Question de goût, hein, mais
le début d'Heavy Rain post Jason, qui est
post Jason.
Je trouve ça super marquant.
Fahrenheit était très réussi.
Fahrenheit était top aussi,
sa mise en scène et justement ce côté angoissant où tu sais plus si tu pètes un plomb ou s'arrête la réalité, etc. J'avais bien aimé. Je pense que c'est mon préféré parce que Heavy Rain, j'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai pas fait Beyond et puis Detroit. Tu fais partie plutôt pour le coup des détracteurs de l'écriture.
Un peu en ça.
Ouais, Beyond, t'as pas trop aimé, toi.
Non, Beyond, c'est celui que j'aime le moins.
Ouais. Clairement, il était un peu fantastique, un peu bizarre. Et du coup, comparé à un Heavy Rain qui était vraiment très bien écrit, je trouvais. Et Beyond, ça partait un peu dans le fantastique. C'était un peu voilà.
Un peu chelou sur la fin. Beyond,
c'était un peu révolutionnaire Heavy Rain quand même quand c'est sorti. Je veux dire, un jeu de ce calibre là avec ce type d'enquête et la profondeur du scénario, c'était vraiment pas une chose courante.
Heavy Rain, c'était le genre de jeu où je me rappelle, j'étais encore chez mes parents au moment où j'y jouais et qui pouvait potentiellement attirer l'attention de ma mère, tu vois, si elle passait alors que j'étais
un
en train de jouer.
Joueur.
C'est typique du jeu narratif un peu ciné.
Et
les
gens capables de s'asseoir et de suivre ce qui se passait, me poser des questions, un truc comme ça. C'est en fait. Les jeux quantiques, c'est des jeux
que
tu peux faire avec un non-joueur à côté de toi et prendre ça comme un film. Tu vois,
un film interactif.
Aussi bien Beyond que Detroit, je les ai fait avec ma femme, avec moi, et on faisait les choix tous les deux, etc. Et on était vachement investis. Et ce qui était cool avec Beyond, c'est que tu pouvais diriger le deuxième joueur pouvait diriger Aiden. Et donc ma femme était sur la tablette et elle dirigeait Aiden.
Ah oui, c'est vrai,
elle jouait vraiment avec moi et c'était cool. Detroit qui est super ambitieux en termes d'embranchement. Il y a peu de jeux qui, je pense, proposent autant d'embranchements.
Mais justement, qui a fait plusieurs fois le Detroit?
Moi, je l'ai pas refait entièrement, mais j'ai refait certaines scènes pour voir différents. Et des fois, ça se joue à rien en fait. C'est des tout petits détails qui vont te faire
partir dans un complètement autre sens.
Après, comme Thomas, il y a des trucs dans l'écriture et dans l'histoire de Detroit qui m'ont pas trop plu. On en avait longuement parlé tous les deux. On était plutôt d'accord là-dessus. Même l'expérience de jeu était plaisante malgré tout. Et le travail fait sur les embranchements, j'ose même pas imaginer la taille du script.
Mais disait que ça faisait 5000 pages.
Oui, c'est ça.
5000 pages.
Alors qu'il disait qu'un film entre guillemets triple A, c'était 300 ou 500, je crois. 500 pages, c'est tout.
Un film triple A.
Enfin, un blockbuster, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors que lui, il a fait 10 fois plus de pages, quoi. Enfin,
et ouais, des personnages vraiment expressifs. Alors après, comme ce sont pas des environnements ouverts, ils sont toujours très détaillés, etc. Mais il y a un travail de mise en scène qui est toujours réussi.
C'est très propre à chaque fois.
Dans les jeux quantiques, et tu sens vraiment l'influence du cinéma américain sur David Cage.
Et c'est toujours des thèmes intelligents qu'on retrouve pas forcément.
En fait, il a toujours essayé d'éviter de faire du jeu vidéo traditionnel.
Ouais, basique, machin. Ouais.
Et par contre, moi j'ai un regret.
Il a repoussé les boundaries à chaque fois.
J'ai un regret avec Quantic, c'est que je sais pas si vous vous souvenez cette fameuse démo du magicien.
Ah oui.
Du mec qui faisait le truc.
Avec le dézoom.
Voilà, ouais. Et au début, tu prenais ça au premier degré, ça avait l'air super sérieux et tout, Heroic Fantasy. Et coupé, en fait, c'était un truc humoristique. Ouais. Et
le ton était super chouette.
Ouais,
le ton
était donné. Ouais. Vraiment que dans le jeu vidéo, la comédie, c'est quelque chose qui manque. Il y en a, mais pas assez.
Ouais, tellement peu.
Et je serais ravi de voir un quantique en comédie.
En total déconne.
De cette échelle, de cette ampleur-là. Alors après, peut-être qu'une comédie, c'est plus compliqué à vendre qu'un jeu avec une intrigue policière,
c'est
etc.
C'est moins universel.
Ouais.
Mais c'est vrai que ce serait super
mais
chouette.
J'aimerais les voir essayer autre chose que le truc
que le
sombre, histoire, drame, etc.
Ouais,
si vous écoutez, les gars.
Ils modélisent Bourville et Lutte Funès.
Parce que je pense qu'ils pourraient nous.
La grande vadrouille.
T'imagines? Je pense qu'ils pourraient nous surprendre. En tout cas, joyeux anniversaire à
Quantic, effectivement, 22 ans. 22 ans. Et toutes ses dents. Tout à fait. Eh bien, c'est l'heure.
Est-ce qu'on invoque Plume ?
Je crois qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte comme tout à l'heure.
Ouais.
Parce que c'est l'heure de quoi ? Du hors-jeu, bien sûr, avec un certain.
Plume. Ah, j'étais tellement bien tout seul.
C'est vrai, ouais, c'est fini.
Plume, voilà. C'est l'heure du hors-jeu. Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, tu vas nous parler de la fin du monde, c'est ça ?
Salut Plume, j'espère que tu vas bien.
Pas du tout.
De la fin d'un monde.
Je suis plein d'espoir pour le monde. Mais bien sûr, en fait, non, c'est la merde. Voilà. Sachez-le, c'est la grosse merde. Mais malgré tout.
Le sachiez-tu ?
Eh bien, notre planète, qui est donc le hors-jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est sorti le 5 avril dernier sur Netflix. C'est une série de documentaires sur, comme vous l'avez compris, notre planète, évidemment.
C'est un docu-fiction.
L'idée que oui, on est en train de tout niquer, hein, l'humain est en train de faire n'importe quoi.
Et 50 ans, les amis, 50 ans.
Que ce soit par les effets du dérèglement climatique, de nos modes de consommation, des espèces que nous avons nous-mêmes décimées. Malgré tout ça, on arrive avec ce documentaire qui est narré par David Attenborough, qui est un naturaliste très connu, d'ailleurs le réalisateur de la plupart de ces documentaires qu'on connaît comme Planet Earth et The Blue Planet. Voyez, je le dis en même temps, c'est magique que la vidéo, qui est donc Alastair Fothergill. Eh bien, ils sont encore réunis pour nous faire vivre quelque chose d'assez magique en 8 épisodes. On découvre des endroits de la planète suivant, on va dire des types d'habitations. Alors, on a évidemment les endroits un peu froids, on a les prairies, les forêts tropicales, et on découvre des animaux un peu partout, comment ils s'adaptent, comment ils vivent. C'est assez passionnant à regarder. Alors, je sais pas si tout le monde est fan de documentaires animaliers.
Ah si, moi j'adore, je suis un grand fan.
Mais
ça a l'air d'être filmé vraiment.
C'est magnifique.
Alors, incroyable. Les images sont absolument dingues. Mais pour les personnes qui connaissent déjà Planet Earth et Planet Earth 2, qu'on trouve en Blu-ray 4K, malheureusement seulement que au Royaume-Uni pour l'instant, les images sont complètement folles. Hein. Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour avoir un tel grain d'image, une telle possibilité d'approcher à ce point-là des animaux qui sont quand même sauvages, qui sont pas non plus des bestioles qu'on peut dompter comme ça. Et en termes d'image, c'est vraiment incroyable. Et on va découvrir surtout des animaux fascinants. Il y en a deux en particulier qui m'ont juste fait devenir fou, et ma femme qui est à côté de moi elle se posait la même question. Il y en a un qui s'appelle le paradisier sifflet. Alors, personne ne doit connaître ici, c'est logique, mais il a une parade nuptiale.
Si, je l'ai vu, moi, la vidéo.
Qui est complètement dingo. On dirait qu'il fait la danse de Rabbi Jacob.
Exact.
Tout ça pour pécho pendant 3 secondes juste derrière. Mais vous voyez ça,
vous vous dites,
la nature est quand même. Alors, on le voit à l'image là. Ouais. La nature est incroyable d'avoir prévu un animal qui fait ça. Juste avant, il a nettoyé un espace d'environ 5 mètres carrés. Pour que ce soit clean, pour que sa prétendante puisse vraiment apprécier c'est complètement fou.
C'est un gentleman.
Il se met en scène, en fait.
Et non, mais il fait des trucs avec ses yeux, il change la couleur de ses yeux, il change toute son apparence, tout ça pour faire une espèce de derviche tourneur chelou. Et c'est incroyable à découvrir, c'est vraiment incroyable. Donc faut pas trop en montrer Poufy pour nos premiums. Je vous conseille vraiment de regarder ce passage. Il y a aussi un autre animal, c'est un papillon.
C'est un animal
qui lui est carrément le Christophe Rocancourt de la nature.
C'est vrai.
Alors, j'en dis pas plus.
Il arnaque tout le monde.
Ah, il fait une arnaque, mais incroyable, pour réussir à être, à grossir. C'est la chenille grossie aux frais de la princesse.
Ah ouais.
Je dis pas quelle princesse. Et quelques mois plus tard, hop, elle s'en va comme ça en papillon tranquillement.
Quelle classe.
Et tout ça aux dépens d'une autre race d'animaux. Bref, c'est juste un documentaire extraordinaire. Il n'y a pas que des belles choses, malheureusement. Poufy insiste depuis tout à l'heure sur la vidéo si vous êtes premium. Effectivement, on découvre aussi des destins assez tragiques, malheureusement, de certaines espèces.
Genre l'ours polaire qui va crever.
Qui, à cause de la fonte des glaciers, essaye de trouver de la place, malheureusement, sur des espaces qui sont beaucoup trop. Oui. Beaucoup trop petits, et ce qui fait que on se retrouve avec malheureusement
pourquoi tu nous montres ça, Poufy?
C'est malheureusement ce qui se passe.
Mais moi j'ai pas envie de voir ça.
Il faut regarder, parce que c'est comme ça que ça se passe,
malheureusement, à cause de nous que toutes ces choses arrivent. Heureusement, on a quand même parfois des espoirs.
Voilà, merci pour ce jeu qui confirme que je ne regarderai jamais ce documentaire
à cause de toi. Romain Mahut,
il y a quand même des notes d'espoir dedans. On peut
il y a
de la 8K,
c'est cool.
On peut découvrir des endroits où des espèces
ont
été réinsérées Et on va peut-être le montrer ça plutôt que les morses qui tombent. Poufi, je sais que ça te touche beaucoup.
C'est un petit sadique, Poufi, tu vois.
Ouais, bah, j'ai l'impression aussi, ouais. Et donc, il y a des endroits où les animaux ont été des espèces ont été réinsérées et du coup, à nouveau, prolifèrent à nouveau. Mm-hmm. Des forêts aussi qui ont été protégées et du coup, la vie, pareil,
reprend ses droits.
Elle reprend ses droits, absolument. Donc, il y a de l'espoir, mais il faut pas qu'on se chie dessus pendant les 20 prochaines années.
Bah, il paraît que le GIEC dit qu'on a que 12 ans pour. Tout remettre à zéro, sinon c'est la fin des temps.
Alors David Attenborough, lui, parlait de 20 ans.
Non, bah, j'y crois pas. Mais
c'est tout ce qui se passe dans les 20 prochaines années.
Moi, je pense qu'on a raté le coche il y a 30 ans, mais maintenant.
Oui, je pense aussi, oui. Parce qu'avec tout ce qu'on a dévasté.
Je suis pas spécialiste.
Ces dernières années, malheureusement, je pense qu'on est déjà un peu foutu.
Mais c'est pas de votre faute.
Tout est possible. En tout cas, si vous aimez les baleines, les éléphants, les piafs bizarres,
les piafs chelous,
les caméléons, et
les
autres.
Les derviches tourneurs.
Et autres félins, absolument. Il y a des félins
et
aussi.
Et autres félins.
Et les lémuriens. Bref, si vous voulez voir des bons animaux, et parfois.
Si vous voulez les voir mourir dans notre souffrance aussi.
Si vous voulez
aussi,
parfois
c'est
malheureusement les voir mourir. Alors, j'ai pas parlé aussi de ce qui se passait avec les manchots dans leur environnement naturel, hein, mais il y a des trucs bien, bien hardcore qui les concernent aussi.
Les manchots tourneurs.
N'hésitez pas à regarder. C'est à la fois très instructif et à la fois magnifique.
Mais du coup, tu prends conscience de plein de choses.
Comment ?
C'est que sur Netflix,
absolument. Ouais. Mais il existe d'autres documentaires, je vous le disais, narrés par David Attenborough, que vous pouvez retrouver un peu partout.
Et David Hasselhoff
que ce soit Planet Earth ou Blue Planet. Et j'en oublie encore bien d'autres.
Bien, merci beaucoup,
de
Plume, pour cet instant magique et néanmoins tragique.
Oui.
Mais nous verrons comment tout ça va se goupiller dans les années à venir. Est-ce qu'on va réussir à sauver la planète ou est-ce qu'on va tous crever
Je sais pas, moi je roule en diesel.
Comme des morses. Oh. Bah voilà.
Désolé.
Bravo.
En même temps, je roule une fois par mois en diesel.
Ça coûte de toi en fait.
C'est un Hummer sur lequel il a fait installer des roues.
Le réchauffe
truc, tu sais.
Oui, puis j'aime bien faire sortir la fumée noire, tu sais, à l'extérieur comme les Américains.
Quand tu arrives dans la rue, t'avais.
Alors ça, c'est un truc que je supporte pas, quoi.
Ouais, c'est tout ce que j'ai.
Tu crever les pneus et.
Ah, les yeux aussi.
Et prendre.
Et les mains et.
Prendre le pot d'échappement.
Franchement,
le pot d'échappement et le foutre dans la cabine.
Juste pour qu'ils crèvent ce qu'ils méritent.
Comme des cons.
Et c'est à cause d'eux, la fonte.
Bah, bien sûr, c'est sûr. Bah, en tout cas, oui, c'est.
Non, moi j'ai pas de meurtre, moi j'ai une polo.
C'est vrai ?
Ouais, elle est cool ma polo.
Ok, d'accord. Ouais. Bon, bah, sur ces entrefaites pourries.
C'est notre réjouissante.
Voilà, exactement. Je crois qu'on va tous déprimer ce soir, à mon avis, comme des cons.
Ouais. Et ça, c'est grâce à déjà, contre, parce que je lui ai pas demandé à moi de passer ça. Hein,
c'est vrai.
Avengers voilà. Infinity Endgame. Et Hors Planète à la suite, c'est trop pour moi.
C'est trop. Tout à fait. Eh bien, merci messieurs pour ce podcast 497 qui s'achève dans
merci
la France.
Merci, ça fait 5 de suite.
5 à la suite.
5 à la suite, hein.
Par contre, je tousse là. Donc, c'est la fin du podcast. Il était temps. Exactement. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast 497. Donc, vous pouvez suivre partout.
Merci Plume pour ta participation à ce podcast.
Voilà, exactement.
Merci à vous.
Légendaire.
Qui nous a fort réjoui. De toute façon. Vous n'avez plus besoin de moi pour les podcasts, c'est fini.
Non, c'est fini. D'ailleurs, on va te latter à la fin là. hors caméra.
Alors que je ne vais pas pleurer.
Exact. On fera hors jeu en plus avec ces images.
On
filmera en 4K.
Ce sera la meilleure vidéo.
Exactement. Merci à tous et à toutes. Des bisous. Jouez bien, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de la semaine sur l'actualité.
Si on n'est pas tous morts.
Au revoir.
Si nous sommes tous encore vivants, bien sûr. Allez, ciao ciao à tous, à très bientôt. Salut,
ciao.
Salut.